de retrouver Pierre Palmade, Ariel.
À traître. J'ai vraiment le béguin pour Pierre Palmade depuis le début.
Ah oui.
Ce petit corps tout frêle, comme ça. Et puis cette insolence, cette invention, et ce côté lunaire, parce qu'il a toujours cette poésie. Quoi qu'il fasse, il reste...
Je savais que de toute façon, il répondrait à ma question. Alors mais que oui. Valérie Mérès, elle est très très inquiète.
Je dois dire. Oui, je suis
ce petit corps frêle est douce, et douce, toujours
ce regard, ce regard lunaire.
C'est pas parce que je me suis épanouie depuis 10 ans que ça va. Non, moi je suis très inquiète pour RTL parce qu'on va lâcher du chèque. Hein.
Mais non, mais arrête, c'est pas vrai.
Ah bah, depuis, t'as vu,
depuis
t'as
le
vu.
Début, tu nous traites de crétins. C'est Laurent qui doit nous traiter de crétins, pas entre nous. On doit pas se traiter
non, mais
de crétins.
Valérie a raison.
Moi je suis lucide.
Oui, oui. Valérie a très peur qu'aucun d'entre nous ne...
Mais s'il y a des questions de cuisine...
Mais non, moi, s'il y a une question sur la bossa nova, les abeilles et l'opéra, je réponds.
Enfin, bon, s'il y a des questions sur mes sketchs, je réponds.
Et puis Armel, c'est pas très gentil Valérie Mérès, mais Armel est très très cultivée.
Ah ouais, oh bah... Eh ben ça se voit pas tout de suite.
Et Ariel non, mais... aussi, elle n'a aucune mémoire, mais elle est très cultivée.
Ariel, non, elle dites... répond une fois sur 10. Ouais. Et encore, je suis sympa.
Mais pour Armel, vous dites ça parce qu'elle a des lunettes, mais franchement...
Non, toutes les questions sur moi sont bonnes. Hein,
vous ne croyez oui. pas si bien dire, il y aura des questions sur les uns et sur les autres.
Ah,
j'ai,
oui.
j'ai choisi quelques spécialités dont vous êtes voilà.
Friand.
Friand, évidemment. Friand, bon, on commence par une première citation. En plus, c'est assez facile car c'est dans Le Parisien aujourd'hui que j'ai trouvé cette citation parce qu'elle est d'actualité. C'est pour monsieur Jean-Claude Gerbaud qui habite à Louis-Saint-Jean dans le Cher qui a dit « Celui qui craint de souffrir... il souffre déjà de ce qu'il craint. » C'est une très belle phrase, mais de qui est-elle?
Est-ce qu'elle a été dite par quelqu'un qui est mort?
Ah oui, c'est quelqu'un
qui est mort.
Le général de Gaulle?
C'est pas Sénèque.
Parce qu'il Sénèque, est dans bah. L'actualité.
De Gaulle, c'est Confucius, Confucius.
Confucius, non.
C'est quelqu'un qui m'a dit.
Oui, c'est quelqu'un qui m'a dit, c'est le journaliste du Parisien.
Valérie a demandé si la personne qui a dit cette phrase était vivante à l'époque. Oui.
Oui, à l'époque.
D'accord, ok. À l'époque, elle était vivante.
Encore faut-il trouver l'époque.
C'est le 18e.
Oh non, c'est un peu avant.
Alors est-ce que c'est Pascal?
Est-ce que c'était Diderot?
Est-ce que c'est Montaigne?
Alors, c'est Montaigne. Bonne réponse d'Ariel Dombal. Au 16e siècle, Montaigne.
Pas mal.
Une citation pour Valérie Senter, qui habite Saint-Georges-de-Renin dans le Rhône, qui a dit « Regarder à travers le trou d'une serrure peut être le signe de la plus extrême politesse, surtout si la porte est grande ouverte. »
J'ai compris.
C'est quelqu'un qui aime.
Merci. Ah oui, c'est sûr que s'il y a une porte ouverte, tu vas regarder.
Sauter un portail ouvert.
Bah, le trou voleur. De la serrure donne sur le mur, du coup.
Ah, la porte oui, elle a raison.
Et oui.
Merci.
Ah, c'est pas con ce que vous
bah
dites.
Oui, elle a
On sent oui. que vous avez essayé.
Non, mais c'est vrai que c'est assez sexy de regarder par le trou de la serrure.
Ah oui.
Ah ben oui, quand
ah
même.
Ah ben s'il y a quelqu'un derrière.
Ah ben évidemment.
C'est par le trou qu'on connaît tout.
C'est une belle morale.
Non, c'est la chanson,
c'est
regardant
une phrase de
par
qui,
le
ça
trou, par le trou, par le trou, par le trou de la serrure.
C'est vrai qu'elle est cultivée, hein.
Attendez, qu'est-ce que c'est que cette chanson refaite
à moi? C'est une chanson d'opérette très connue. C'est Allez-y. Par le trou qu'on connaît tout.
C'est tout ce que vous connaissez de la chanson.
Par le trou de la serrure. Par le trou qu'on connaît tout. Bah après, je sais plus. Par le trou de la serrure. Par la porte de la. Non, c'est tout ce que je sais.
Regardez à travers le trou d'une serrure. Peut-être le signe de la plus extrême politesse, surtout si la porte est grande ouverte.
Est-ce que c'est quelqu'un qui est mort?
Oui.
Qui a dit ça?
C'est un peu absurde. Donc oui. C'est signé, ouais. évidemment.
Qu'est-ce qu'il y a comme genre
est-ce
mort?
Est-ce que c'est quelqu'un qui écrivait des pièces de théâtre?
Oh, il a écrit nous deux pièces de théâtre, mais c'est pas ceux pour lesquels on le connaît le plus.
C'est quelqu'un qui était connu pour être drôle.
Très drôle, un des maîtres de l'humour.
Ah, Pierre Francis Dac. Blanche.
Pierre Dac, ah. Bonne réponse d'Élise et Moon, c'est Pierre Dac. Oh,
on s'en sort bien, Valérie.
Une citation pour Ghislaine Boucher, qui habite Amberieu en Bugey, qui a dit « La raison d'être des statistiques, c'est de vous donner raison. »
Un ministre.
Ah oui, ça pourrait, effectivement.
C'est un politique?
Ce n'est pas un politique qui a dit ça. La raison d'être des statistiques, c'est de vous donner raison.
Est-ce que c'est un humoriste qui a...
Un humoriste, oui.
Professionnel, enfin...
Ah bah, professionnel, oui, il arrivait à l'heure.
Il a été payé pour
non,
ça
mais...
c'est pas Coluche qui a dit ça?
C'est pas Coluche.
Ce n'est pas Jean-Yann.
Des proches.
Ce n'est pas des proches.
C'est, c'est cette c'est cette époque-là?
Oui, on peut dire, oui.
Martin, Jacques Martin.
Jacques Martin, non.
Guy Bedos.
Guy Bedos, non.
Alice Sapritch.
Alice Sapritch. Ouais. Alors là, c'est la première fois depuis longtemps qu'on entend le nom d'Alice Sapritch. Ah oui.
Ben, c'est ce que je me suis dit.
Est-ce que... Il est mort ?
Ah, quelqu'un de mort.
Ah oui.
La raison d'être des statistiques, c'est de vous donner raison.
Et c'était dans un sketch,
il faisait,
ça ?
Il faisait des bons mots, enfin, il faisait des personnages, il faisait des bons mots.
Oui, c'est quelqu'un qui montait sur scène. Oui, oui, oui.
C'était Georges Marchais.
C'était drôle en même temps.
Oui. Est-ce qu'il était dans l'Académie des Neufs ?
Elle est restée bloquée en dans les années 80.
Alors là, je rejoins Valérie, c'est là qu'on voit la différence entre les grosses têtes habituelles qui disent « Est-ce qu'il était de l'Académie française ?» et celle d'aujourd'hui qui me demande « Est-ce que c'est l'Académie des Neufs ?» Valérie, vous êtes une visionnaire, finalement.
Mais oui, absolument. Alors, c'est Jean-Pierre Foucault.
Non, pas.
Mais non.
Véronique et Davina.
Non, quelqu'un, d'ailleurs, dont le fils est sur scène. Lui.
Ah, Métayer.
Alex Métayer. Bonne réponse. Bonne réponse, Denis Semoun et Titoff. Savez-vous où pouvait-on trouver une chambre japonaise, une chambre Louis XV, une chambre hindoue, une chambre directoire, une chambre médiévale et une chambre mauresque.
RTL, c'est un bordel avant, c'était bordel. Ici.
Chez Stevie. C'est le Chabanais, le Chabanais.
Le ouais. Chabanais, ouais. Bonne réponse. Bravo, bonne réponse de Jean-Jacques Perroni. Il se trouve qu'il y a un livre qui va être publié aux éditions Nicole Canet qui raconte l'histoire de la célèbre maison close, le Chabanais, de 1877 à 1946. Ce qui est incroyable dans l'histoire de ce bordel, de cette maison de passe.
Là où a débuté Christine.
Luxueuse. Non, ça a fermé en 46, faut pas exagérer quand même. C'est que il y avait une chambre Louis XV, une chambre hindoue, une chambre directoire, une chambre médiévale, une chambre mauresque, mais la chambre japonaise fut récompensée lors de l'exposition universelle de 1900. Vous rendez compte?
Attendez, c'était quand même un rendez-vous mondial.
Ah exactement. Bon, le futur Édouard VII, surnommé Bertie.
Celui qui a abdiqué, celui qui s'est marié avec Wallis Simpson. Oh, mais
là, croyez-moi, il n'a pas abdiqué quand il est allé au Chabanais.
Là, il est venu avec son sceptre. Hein.
Guy de Maupassant, lui-même, fréquentait le Chabanais.
On a même vendu sa baignoire du Chabanais à Édouard VII. Il prenait des bains de champagne avec quelques putes à l'intérieur.
Exactement.
Ça a fermé en 46.
Ça a fermé en 46.
Le 16 avril 46.
Et en 1951, Maurice Reims a vendu aux enchères la fameuse chaise de volupté d'Édouard VII. Ouais.
C'était quoi ?
Ah bah c'était une chaise avec...
Un trou ?
Non.
C'était quoi ?
Si, il y avait des trucs comme ça.
Bah oui.
Le Chabanais avait effectivement une baignoire à champagne de cuivre rouge qui fut vendue aux enchères par Maurice Reims en 1951, en même temps que la fameuse chaise de volupté d'Édouard VII. Alors la chaise de volupté, je ne sais pas exactement vous dire de quoi il s'agit, mais c'était une chaise qu'avait fait construire exprès pour lui Édouard VII.
Pas de champagne. Chaud ?
Oh, le champagne était chaud après. Il y avait 20 à 35 pensionnaires. Hein,
bah, dites donc, c'était une maison qui tournait, monsieur, et puis bien tenue.
Et le futur roi Édouard VII avait fait donc construire ce fauteuil sur mesure, un fauteuil à étrier métallique.
Oh, purée ?
Et oui, purée après, ça, alors. Il y avait 5 maisons closes célèbres à l'époque à Paris.
Je vous les donne toutes.
Allez-y.
Le Chabanais,
le One Tutu,
ça en fait deux.
Le Sphinx,
trois. La Fleur Blanche.
Ah, je le connais pas celui-là.
La Fleur Blanche.
Il était où ?
Ah, ça, je sais pas. Écoutez, j'ai pas les adresses.
Hein. le sujet n'est pas fouillé. Alors.
La rue des Moulins.
Ah bah celui-là.
Et chez Marguerite.
Chez Marguerite, ça oui.
Oh, moi j'aimerais bien.
J'aimerais bien qu'on les rouvre. Ça ferait des comédiennes en moins et des journalistes en moins aussi.
Christine, vous qui en connaissez des prostituées, puisque il y en a plein dans votre rue.
Il y en a plein chez moi, je les connais bien.
Comment ça, chez vous?
C'est comme...
C'est vous le nouveau comme ça. Le nouveau Chabanais, c'est chez vous?
Mais non, mais Christine, elle fait des petites pièces. Elle où son bidet?
Madame Claude, Madame Christine.
Elle où son bidet?
On les racontait alors.
Rien à raconter, c'est mes potes, c'est les anciennes. Elles ont maintenant entre 60 et... Et bah, y en a une qui bosse encore à 85.
Oui, mais là, pardon, mais c'est soldé un peu, non?
À cet âge-là,
ça monte plus qu'à l'entresol. Hein.
Non, non, mais
de toute façon, je vous ai déjà dit la dernière fois qu'elle voulait plus baiser. Donc, je dirais...
Là, elle arrête, ça y est, je vais reverser sa pension.
Maintenant, elle fait quoi? Elle mâchouille?
Ben oui, elle mâchouille, ouais.
Et vous connaissez l'histoire de la vieille pute à 85 qui a encore un client?
Non, allez-y.
Alors, elle tourne sur un client, il lui dit c'est combien? Le mec, il a fait le tour de Paris, c'était des prix exorbitants. Elle dit, ben moi, c'est 20€ l'amour et 25€ la sodomie. Il dit, vraiment, c'est ce que j'ai trouvé de moins cher. Il la regarde, la pauvre, elle est décrépite. Il fait, tant pis, allez, tant pis. Il monte dans la chambre et il lui fait son affaire et tout. Il lui regarde pas trop le visage et tout. Elle se retourne, elle s'allonge sur le ventre. Lui, il fait son affaire. Et à la fin, il fait, combien je vous dois? Et la vieille se retourne, elle dit, je sais pas, t'étais où?
Elle a rien senti.
Une question plus facile pour mes camarades Mabi et Fabrice. Vous connaissez... Non, je n'ai pas dit qu'elle était plus facile. Plus facile pour vous parce qu'elle est plus...
Ancienne.
Plus ancienne, voilà.
Elle est sépia, quoi.
Répondez les frères Jacques, ça devrait être bon.
Elle concerne une chanson de Jacques Brel que vous connaissez forcément. Bah oui. T'as voulu voir...
Vesoul.
Alors non, ça commence pas par Vesoul.
Vierzon.
T'as voulu voir Vierzon et on a vu Vierzon et c'est seulement effectivement dans au troisième vers que, si j'ose dire, que Brel chante et t'as voulu voir Vesoul et on a vu Vesoul. Ma question est toute bête. Quelles sont les quatre villes françaises, attention, françaises, citées dans cette chanson de Jacques Brel? Vous en avez déjà deux puisque vous m'avez dit Vierzon et Vesoul. Il en manque deux autres.
Je me la chante dans la tête, genre.
Il y a eu Paris, non?
Il y a Paris, bravo. A Paris. Ah ben, il vous n'en manque plus qu'une alors. Parce qu'il y a plus dur à trouver, Paris.
Ah oui?
Curieusement. Ben oui, parce que c'est pas dans l'enchaînement du début de la chanson.
Ce ne sont que des villes françaises. Hein, on
que
est bien
des villes françaises.
Est-ce que la troisième qu'on cherche finit en houle?
Pouf! Ben, t'en connais? T'en connais des villes en houle? Toul? T'as vouloir Toul?
Oui, Toul.
Bah, Toul.
Moule, moule. Pourquoi en houle? À cause de la rime avec Vesoul.
On peut plus, alors si on peut plus chercher sur des critères...
Angers.
Non, bah écoutez, il suffit de connaître la chanson de Brel.
T'as voulu voir Nancy?
Nancy, non. Je vais rentrer la chanson dans mon GPS.
C'est pas évident.
T'as voulu voir...
Quatre villes françaises sont citées par Jacques Brel dans ce célèbre succès de la chanson française.
Il y a Hambourg, Bordeaux. Mais c'est pas français.
Non, pas Bordeaux.
C'est une grande ville?
Ah, une jolie ville, en tout cas.
Je pense pas que ce soit Melun, ça se saurait.
Bordeaux.
Oh bah, écoutez, il y a bien Vierzon et Vesoul, pourquoi pas Melun, hein?
Moi, je sens qu'il y a un truc en V, donc c'est encore une ville en V.
C'est une ville au bord de la mer?
Oui, Marcella.
Toulon, à la Baule.
Ça, c'est une belle question. C'est une ville au bord de la mer.
Berck.
Nice, Cannes.
Pornic.
Montpellier.
Non. T'as voulu voir le Touquet Paris-Plage?
Royan.
Essayez de chanter la chanson ensemble.
Alors,
allez-y.
T'as voulu voir Vierzon?
Et on a vu Vierzon.
C'est dans les Nords, la ville?
C'est dans les Nords. Ça y est.
Calais,
non.
Cabourg.
Dunkerque.
Alors, dans le Nord, ça dépend ce que vous appelez Cherbourg. Le Nord. Vous savez, pour les Marseillais, le Nord, c'est au-dessus de la Loire. Alors,
Cherbourg.
Alors, si votre question c'est, est-ce que c'est au-dessus de la Loire? Oui, c'est au-dessus de la Loire.
C'est en Bretagne.
Cherbourg.
La Rochelle.
En Bretagne, non.
Le Havre?
Le Havre. On t'a voulu voir le Havre.
Oui. Bah, écoutez.
Faut être vicieux, quand même. Oui.
Il avait des plaisirs interlopes.
Ça fait beaucoup.
Non, mais écoutez, chantez-la encore une fois, mais ça va vous revenir.
T'as voulu voir Vierzon et t'as vu Vierzon.
T'as voulu voir
Vesoul.
T'as voulu voir Cabourg.
T'as voulu voir.
Cabourg.
Mais non, pas Cabourg.
Non.
T'as voulu voir Granville.
T'as voulu voir Granville. Pas du tout.
Saint-Lô.
Vous n'avez pas l'air de connaître bien la géographie française, Marcella.
Non, je crois pas. Non, ça, zéro.
T'as voulu voir Buenos Aires.
Ah, Arras.
Non, mais réfléchissez.
En bord de mer.
Rechantez-la encore.
Merde. Il y a eu un tsunami.
Rechantez-la encore, la chanson. Voilà. T'as voulu voir Vierzon et on a vu Vierzon. T'as voulu voir Vesoul et
on a vu Vesoul.
T'as voulu voir le Touquet.
Mais non.
Mais non, mais ça doit arriver en on.
Faut deux syllabes.
Ça dépend comment je regarde.
Ah, il vous reste 30 secondes pour trouver la ville manquante.
C'est deux syllabes.
Alors en plus, je pensais, j'étais persuadé que c'était Paris qui vous manquerait, parce que Paris arrive bien plus loin dans la chanson.
Oui, mais c'est notre ville, on l'a dit.
Et j'étais persuadé qu'en revanche, le début de la chanson, vous le connaissiez par cœur. Parce qu'il y a des tas d'autres villes citées, mais pas des villes françaises. Il y a Hambourg qui est cité dans la chanson.
Je sais que ça finit en Hambourg.
Quoi?
Honfleur.
Honfleur. Bonne réponse de Stevie.
On l'a dit.
Me faites pas écoute, je l'ai dit.
Si. On l'a dit.
Fabrice avait dit Trouville, mais il n'avait pas dit Honfleur.
Ah, non, j'ai pas dit Honfleur.
Ah, vous n'avez pas dit Honfleur.
Non, et je le regrette, croyez-le bien.
Il n'y a qu'à vérifier, de toute façon.
Ah oui.
T'as voulu voir Vierzon et on a vu Vierzon. T'as voulu voir Vesoul et on a vu Vesoul. T'as voulu voir Honfleur et on a vu Honfleur. T'as voulu voir Hambourg et on a vu Hambourg. J'ai voulu voir Anvers, on a revu Hambourg. J'ai voulu voir ta sœur et on a vu ta mère. Comme toujours.
Et voilà, et après ça revient régulièrement dans la chanson. Elle est chouette cette chanson. Vesoul, c'est la préfecture de Haute-Saône et c'est évidemment pour montrer que le gouvernement reste près de la campagne. Vous avez dû voir Vesoul, vous, Fabrice.
Oh, probablement.
C'est
non. Je traversais la France de long en large pendant 35 ans, donc j'ai dû voir Vesoul.
C'est horrible, Vesoul. Enfin, je n'irai jamais avec une ville, un nom comme ça.
Pourquoi ?
C'est horrible. Par contre, je suis allée à Honfleur à cause de la chanson.
Ah oui ?
Ah oui, j'ai trouvé ça un nom magnifique, en fait.
Tu préfères aller à Lombèze ?
Non, à mon cul. Attendez, je comprends pas. Vous êtes en train de me dire que vous êtes allée à Honfleur à cause de la chanson et pourquoi vous n'avez pas répondu avant, alors ?
Parce que j'avais complètement oublié, en fait. Ah. Les belles choses, on les oublie. Hein.
Ah. Elle est bizarre.
Avec qui vous êtes allée en fleurs, Marcella ?
Avec différents amoureux.
Alors.
Non, mais c'est une ville pour aller avec un amoureux, toujours en fleurs.
Ouais. Trouville, un peu plus.
Ou Bourg-la-Reine, et puis c'est pas loin.
Mais choisis le roi.
Mais vous n'êtes pas du tout romantique, hein, ça vous m'étonnez.
Moi, mes femmes, je les emmène à Avalon.
Bah, c'est classe, ma Bernard.
Gaël Tchakaloff, puisque vous ne trouvez rien sur la mythologie grecque, alors j'ai une question sur les fruits de saison. Ça vous va ?
Ah, bah ça, c'est pour toi.
T'as rien sur le miel. Ouais.
Parce que c'est important, vous savez, de manger les fruits qui sont les bons fruits du bon
mois.
Oui,
c'est vrai.
Eh oui. Par exemple, en janvier, plutôt les citrons, les clémentines, les kiwis, les mandarines, les oranges.
Donc là, c'est une question de cuisine, c'est pour les femmes.
Les poires et les pommes. Et des Scooby-Doo, si vous en avez envie. Évidemment, cher Gaël, en février, là, ça y est, demain on est en février, vous pourrez attaquer les kiwis, les oranges, toujours les noix, les poires et les pommes. En mars, plutôt, donc, toujours les citrons, les kiwis, les noix, ça change pas, en fait. Hein. Jusqu'au mois d'avril. Ah, au mois de mai.
Eh oui.
Au mois de mai.
Eh oui.
Là, arrivent deux nouveaux fruits qu'on peut consommer.
Ah oui.
La fraise, à partir du mois de mai. Et quel autre fruit ?
La framboise.
Non.
Le melon. La groseille.
La framboise, faut attendre juillet.
La pêche.
La pêche.
Ah non.
Juillet.
L'abricot.
Le melon.
L'abricot, plutôt mois d'août.
La poire.
La myrtille.
La poire.
La poire, non plus.
La myrtille.
Non, alors, dans la liste des fruits de saison, c'est assez étonnant, hein, mais pour le mois de mai, il n'y en a que deux. La fraise et...
C'est à noyau.
Ah, c'est pas à noyau.
Le raisin.
Le raisin, non.
Non. À pépin.
À pépin, non plus.
Le concombre.
Le concombre, non, c'est pas un fruit, le concombre.
Non, mais des fois, ça peut passer pour un fruit.
Quand il se déguise.
Quand il est masqué.
C'est sur un arbre fruitier ou pas ?
C'est
ça vole.
C'est une plante, en tout
le
cas.
Le raisin.
Le raisin, non, ça ne vole pas. Non.
L'angélique.
L'angélique, c'est quoi, l'angélique ?
C'est une marquise des anges.
C'est une fleur qui est...
La rhubarbe.
La rhubarbe. Vous voyez que j'ai bien fait de vous poser la question. Bonne réponse de Gaël Tchakaloff.
Elle est dégoûtée.
Ben voilà. Ah, voyez qu'on a trouvé votre domaine.
Et voilà. Et ben, l'angélique, elle est un peu de la même famille que la rhubarbe.
C'est vrai que la rue et la barbe, ça te va bien.
La rhubarbe. J'adore ça en plus. Alors autant vous dire
que c'est bon.
Si vous voulez me faire plaisir, vous me préparez une tarte à la rhubarbe.
Ah, oui, vous ne savez même pas faire cuire un œuf, Laurent.
Vous ne savez pas faire cuire un œuf.
Mais non.
Pour tout vous dire, j'aime tellement la rhubarbe que j'achète des yaourts à la rhubarbe.
Ouais. Bah,
ah oui, c'est bon.
Vous voulez savoir des petits pans de ma vie, Gaël.
Oui, oui, oui.
Vous, avec qui
vous prenez les Activia, non ?
Pardon ?
Les Activia à la rhubarbe.
Non, c'est pas des Activia.
Vous dormez avec qui ? J'ai pas eu la réponse.
C'est des pots en verre, vous voyez. Et mon chien, il y a une chose qu'il adore. Dès qu'il me voit prendre un yaourt, c'est de lécher et de faire. Ah, vous aussi.
Ouais,
ils adorent, ils adorent ça.
Ma mère le fait aussi très bien.
Ah, ils adorent les chiens, c'est lécher le pot de yaourt. Alors là, et sauf que je viens d'apprendre que ça fait des mois et des mois que je lui fais lécher mes yaourts à la rhubarbe et que la rhubarbe n'est pas bonne, par exemple.
Ah bon ?
Pour les amis.
Ben, comme le
c'était une anecdote magnifique et puis tout d'un coup, le tristesse.
Ben, c'est comme le chocolat, c'est un poison pour les chiens, hein. Pas de danette.
Non,
hein.
C'est pas vrai.
Qu'est-ce que ça leur provoque alors, la rhubarbe ?
Oh ! Je peux pas savoir.
Il y en a pas un qui soit droit.
C'est la rue du malheur.
Je peux vous dire depuis, il miaule. Il y a 400 ans, naissait en France un lieutenant général des armées du roi Louis XIV. Quand il est né, on ne savait pas, hein, mais devenu ensuite philosophe, écrivain, pamphlétaire, célèbre satirique et surtout libertin, membre de l'Académie française. Mais de qui s'agit-il ?
400 ans, ça fait combien ?
Saint-Simon ?
Une question à 300 euros.
C'est pas Bovin, non ?
Vauban, non. Une question pour Véronique Gauverde qui habite Londres et qui, à mon avis...
va gagner 300 euros.
Va toucher un chèque RTL.
Vous voulez dire que ce nom ne nous est pas familier ?
C'est quand même un nom qui nous est familier. Moi, je le connaissais, par exemple. On ne sait jamais trop qui c'est, vraiment.
Est-ce que Sylvie pourrait le connaître ?
Et c'est en ça que les commémorations servent à quelque chose, parce que ça nous permet de nous rappeler le bon souvenir de ceux qui ont fait la France.
Bien sûr.
Oui,
donc, il est mais nous, en Argentine, on s'en fout des commémorations.
Il a une particule. Donc, c'est deux quelque chose.
De là. Donc, il est né il y a 400 ans, au mois d'avril 1618.
Ouais. Où il est né où ?
Péridural ou pas ?
C'est pas de la Rochefoucauld.
La Rochefoucauld, non.
Je viens de le dire, moi.
Il est devenu lieutenant général des armées de Louis XIV, courtisan de la cour, donc, philosophe, écrivain, pamphlétaire, libertin. Hein. Il a été parfois, il faut le dire, mêlé à quelques histoires.
Ah, de Strauss-Kahn.
Non, enfin...
De Weinstein.
Quelques histoires sexuelles. Hein.
Mais ça, il est connu plutôt.
Il a même été embastillé en tant que libertin.
Mais il n'a pas de quartier de noblesse ?
Compte quand même.
Ça compte aussi.
Oui, compte, ça compte.
On le connaît plus sur son nom de compte.
Ouais. Sur son numéro de compte, plutôt.
on le voit.
Henri Lecomte.
On le voit dans la série Versailles sur Canal+, ou pas ?
Oh, écoutez, j'ai pas regardé la série, mais c'est sûrement très bien et on l'aperçoit peut-être.
Il est plutôt connu comme écrivain que comme autre chose.
Oui, libertin, pamphlétaire, philosophe. Je peux peut-être vous donner d'ailleurs.
Il faisait de la télé.
Pamphlète, lui.
Il avait une passion.
Comment ça, il avait une passion ?
Je sais pas, pour les jardins, des choses. Il était sur les réseaux sociaux ?
Non, mais il a écrit. Quand même, et ça c'est important, et vous voyez qu'il était intéressé par l'histoire, et peut-être le libertinage aussi d'ailleurs, l'histoire amoureuse des Gaules, c'est à lui qu'on le doit.
Chauderlot de la Clos.
Stéphane Bern.
Non.
De Bern.
Il n'a pas laissé son nom à des types d'orgies ou à des pratiques sexuelles dévoyées. Non, on l'a oublié.
Mais c'est un nom qui a...
Alors, il s'appelle pas Levrette, par exemple, c'est ça tu...
C'est Mazarin qui l'a fait exiler après ses orgies. Parce que Mazarin, il n'a pas aimé ça du tout.
Il était straight, Mazarin.
Il a écrit des mazarinades.
Non. Mais il s'est fait embastiller, je vous ai dit.
Ah oui, quand même.
Puis il a un château qui porte son nom aussi.
Le comte de Condé ?
Non.
Un château qui porte son nom.
Oui. Et il est inhumé à l'église Notre-Dame d'Autun, puisqu'il est mort à Autun en 1693.
De la Villigny ?
Et comment s'appelle le château, Laurent ?
Le château d'Autun.
Le château d'Autun.
Bien tenté, Bernard. Essayé,
C'est là où il y a Giscard d'Estaing.
Peut-être je peux vous donner son prénom. Ça peut peut-être vous aider si vous donnez son prénom.
Oui.
Donnez-nous le nom plutôt.
Roger.
De Chambord.
Oui, Roger de Chambord.
Bien sûr.
Grand libertin.
Vous dites qu'il a un château, je cherche connement. Parce
Roger,
que
de
pas,
Roger de Versailles.
Roger de
Chenonceau.
Roger de Moulins.
Roger d'Amboise.
Ouais, voilà. Si tu vas par là.
Roger d'Azel-Rideau.
Roger de Château-Rouge.
Roger de Château-Vallon. Roger de Gizeux.
Elle est où la rue
d'Amboise.
Roger de Provence aussi, tant que vous y êtes.
Roger d'Amboise.
Elle est où la
avec
rue
modération,
Laurent.
Bien sûr.
Un petit Roger de Provence.
Attendez un indice. Son château, il est dans le coin de la Loire ou pas ? C'est un château de la Loire ?
Ah non, c'est plutôt en Bourgogne.
Vers Autun, il a dit. Ah ! De Mac Mahon.
Ah oui, Roger de Mac Mahon.
C'est Louis XIV. Ah, mais moi, je l'ai vu, la duchesse
Roger de Savigny.
Roger de... Alors, c'est un nom... il y a une particule, puisque c'est Roger II. Et après, il y a un trait d'union. C'est un nom avec, vous voyez, un double nom, comme on dit.
De la Motte Piquet, un truc comme ça, quoi.
Voilà, par exemple.
Ah ouais. Mais c'est pas ça.
De la Grande Motte.
Roger de la Grande Motte, si vous voulez.
C'était une famille qui a donné d'autres noms personnes célèbres.
De Bourbon-Sicile. Bah, je cherche.
Non, mais c'est quand même le cousin de la marquise de Séville.
Oui, on ne connaît pas toute sa famille non plus. Mais c'est qui celle-là encore ?
C'est celle qui fait du chocolat.
300 euros. Écoutez, voilà encore un chèque qui s'en
Bussy
va.
Bussy-Rabutin ?
Ah bah c'est trop tard.
Ah merde.
Mais c'était bien Roger de Bussy-Rabutin. Alors là, bravo François Rollin.
Non, mais c'est trop tard. Je vais quand même pouvoir vous citer un petit quatrain de Bussy-Rabutin qui est très beau et qui parlera à tout le monde. Il a écrit « L'absence est à l'amour ce qu'est au feu le vent. Elle éteint le petit, elle attise le grand.
» Wow !
C'est carrément sexuel, ça.
Une question pour Madame Justine Bouillot, qui habite Besançon. On disait chef depuis 1945, mais par quel mot le mot chef a-t-il été remplacé depuis 1969?
Bien sûr, c'est pas dans le domaine de la cuisine.
Non. Du tout.
Dans l'administration?
Administration, pas tout à fait, mais un peu quand
dans
même.
Dans l'armée?
L'armée?
Dans l'armée, non.
Dans les prisons?
Dans les prisons, non plus. Depuis 1945, on disait chef jusqu'en 1969. Et là, on a remplacé
1969.
Chef.
On a remplacé chef par patron.
Non, par un autre mot.
Chef de gare.
Et qu'est-ce qu'on dit maintenant?
On dit maintenant le patron de la gare, bien sûr.
Oui.
Le boss de la gare, le PDG de la gare.
Qu'est-ce que vous dites
à Adam? On dit rien, on lui a mis une casquette et un sifflet maintenant.
Dans le Thalys, le contrôleur s'appelle le train manager. Wow. Je vous jure que c'est vrai.
Mais ah alors... voilà une bonne question qui va permettre à Mbouillot de toucher 300 euros. Moi, ça me fait plaisir.
Est-ce que ça a à voir avec le Quai d'Orsay?
Pas du tout.
On disait un chef-d'œuvre et maintenant on dit un patron d'œuvre. Non, c'est
non,
pas ça.
Non, non, non.
Est-ce que c'était une décision politique?
D'ailleurs, parmi vous, certains ont peut-être... Non, mais je vais pas trop en dire. Il faut laisser une chance à Madame Bouillot.
Est-ce que c'est lié à une profession qui comporte...
Ce n'est pas lié à une profession.
Ah, ah bon. Ah.
Est-ce que c'est imagé, le terme chef?
Pas du tout.
C'est géographique?
Non plus.
Je pense c'est des chefs-lieux de canton, non?
Oui, on dit des patrons de lieux de canton. Mais oui. Oui, bah. Je dis, je te...
C'est un rapport avec le département.
Non, monsieur Koff, je voudrais tellement vous faire plaisir.
Ne me faites pas plaisir, j'ai pas besoin que vous fassiez plaisir.
Allez, un petit plaisir de
Gardez
temps en temps.
Gardez votre plaisir.
Ça vous arrive plus si souvent, j'espère.
Est-ce que ça a à voir avec le milieu artistique?
Pas du tout.
Bon. Avec les Indiens, ouais. Un grand chef indien. Oui.
Et maintenant, on dit
un grand patron Sioux.
Cochise et patron.
Ça n'a rien à voir avec les scouts.
Non, mais réfléchissez un peu dans quelle expression, dans quelle fonction on emploie le mot chef, qui aurait depuis été remplacé par un autre mot.
C'est lié à l'actualité.
Chef d'État.
Chef.
Chef d'État.
Chef d'État, et depuis on dit...
Président.
Président.
Président. Eh bien, écoutez, Mathilda, ça aurait pu être votre première bonne réponse, mais pas du tout.
Merde, j'ai cru.
Mais donc, Laurent...
J'aime bien quand il y a des petits nouveaux, ça marche encore.
Laurent, pour réexpliquer votre question qui est pourtant limpide, on ne dit plus patron maintenant, ça a été remplacé par autre chose encore, depuis 69.
Pas du tout.
D'accord.
D'ailleurs, c'est pas patron.
C'est pas patron.
Est-ce qu'on
mot
a féminisé non le mot?
Non plus.
Alors, si c'est pas patron, c'est directeur?
Non plus.
Mais chef d'équipe sportive.
Ah oui, vous cherchez ça, c'est bien. Voilà. Chef d'équipe, c'est une bonne idée, ça. Et on dirait à la place...
C'est coach.
Coach, on dirait...
Voilà, mais non.
Attention, Mathilde, il fait des pièges comme ça. Et un jour, il va t'inviter dans son bureau, c'est un piège aussi.
Oui, mais au moins, elle est sur une bonne piste. Elle cherche une expression dans laquelle il y aurait chef. Et dans laquelle le mot chef aurait été remplacé par un autre mot depuis, vous voyez.
Chèvrefeuille, chèvrefeuille.
C'est...
Non.
C'est sur cette
fromage
piste-là.
Fromage de chèvre.
Fromage de chef.
Ouais, coup de chef, on dit coup de boss.
Entraîneur. Entraîneur.
Entraîneur, non.
C'est lié au sport?
Ce n'est pas du tout lié au sport.
Est-ce qu'il s'agit néanmoins d'un synonyme de chef?
Pas tout à fait, d'ailleurs. Pas tout à fait, c'est simplement que la fonction a été un peu modifiée. Et donc, c'est vrai que le mot chef a été remplacé par un autre mot depuis 1969.
Charcutier, terrine du chef. je cherche vite. Hein.
Vendeur chez McDo.
Vous avez dit que ça concernait quelqu'un autour de la table?
Oui, si. Parce que tous, peut-être, vous avez un jour failli... Oui.
On disait chef du protocole et maintenant on dit chef du proctologue.
C'est pas...
c'est pas militaire du tout.
C'est délégué de classe?
Mais c'est trop tard, Florian Gazan. Effectivement, le chef de classe a été remplacé par le délégué de classe.
Alors ça, c'est l'élégant.
Il faut avoir des enfants pour savoir ça.
Pardon?
Il faut avoir des enfants pour savoir
ça. Ben non, il faut peut-être avoir été ou chef de classe ou délégué de classe.
Nous, on lui cassait la gueule au chef de classe à l'école.
Vous savez qui c'était? Je comprends pourquoi. D'abord, je voudrais saluer l'élégance de Florian qui accorde 300 euros à Madame Bouillot.
Si c'est pas moi qui paye, je peux accorder.
Voilà. Et puis, je veux dire, le chef de classe, c'était quand même toujours celui qui porte des lunettes et qui donnait toujours les bonnes réponses.
Hein. Un faillot.
C'est un peu gazant.
J'ai été délégué, moi.
Vous n'avez pas été dégueulé de classe, vous?
J'ai pas été. Non, parce que quand je dégueule.
Vous avez été relégué de classe, lui.
Quand je dégueule, je serre les dents pour garder les gros bouts, vous voyez.
Oh non, écoutez, on a là Mademoiselle May, Jacques, quand même.
Mais où suis-je? Elle est belle, la France. Elle est belle.
Toujours est-il qu'à partir de 1945, à l'école, on désignait ou on élisait un chef de classe et qu'à partir de 1969, ce terme a été remplacé par un délégué de classe.
Ça avait bien à voir avec la politique parce qu'après 68, on voulait plus le mot chef.
Exactement.
Et voilà.
Exactement. Chef est devenu délégué de classe. Moi, je me suis j'avais pas été élu. Je crois qu'une année, je l'ai été, remarquez.
Ah bon, moi, je l'ai été aussi, mais ça servait clairement à rien, en fait.
Alors, je devais être délégué parce que ça était forcément après 1969. J'ai pas dû être chef de classe à 6 ans. Non, il n'y a pas de chef de classe. C'est pas à l'école maternelle.
Non, il y a responsable de la pâte à modeler. Responsable de la pâte à modeler, mais.
ou du poisson rouge que tu ramènes chez toi le week-end, t'as peut-être eu ça.
Vous avez chargé des gommettes.
Vous avez été délégué de classe, vous, Fabrice?
J'étais déjà le seul noir, ça va, à l'état. J'avais pas besoin.
Pourtant, t'avais 10 ans de plus que tes collègues.
On devrait élire un délégué de classe ici ou un chef des grosses têtes. Ah ouais. Je propose, puisque parfois je le sais bien, vous n'osez pas me parler, vous avez des revendications, je sais que vous aimeriez me dire des choses, mais vous n'osez pas toujours par de votre timidité naturelle qui vous représente les uns et les autres. Donc je trouve que vous devriez, au sein des grosses têtes, nommer un chef de classe ou un délégué de classe qui viendrait me parler de temps en temps.
Bah pourquoi pas. Et pourquoi pas faire un syndicat aussi tant qu'on y est, hein? Quand même. Quelle drôle d'idée, mon pauvre Laurent.
Vous voulez pas?
Non.
C'est-à-dire que je préfère que ce soit un autre, moi.
Oui.
Parce que c'est lui qui va prendre pour tout le monde.
Oui. Bah oui.
Donc vous êtes prêt à en élire un, mais que ce soit pas vous.
Ah oui, oui, oui. Et je voterai à bulletin secret.
Oui.
Parce que
oui.
Je veux pas. Moi, je trouve que tout ce que vous faites est parfait.
Oui, moi aussi.
S'il va prendre pour tout le monde, autant prendre Stevie. Hein.
Une question pour Monsieur Jésus Donelson, qui habite Saint-Doulchard, dans le Cher. Peut-être vous rappelez-vous du nom du président qui a succédé à Kennedy, Monsieur Gisbert.
Ah bah oui, c'est Lyndon Johnson.
Lyndon B. Johnson,
ouais, bien sûr.
Élu effectivement en 1963.
Un mardi. Little Ben Johnson, il est né à...
Little Ben, il a dit Il croit qu'il s'appelle Ben Johnson.
C'est le 36e président des États-Unis. Il était vice-président, évidemment, avant de succéder à Kennedy, Lyndon B. Johnson. Mais il est surtout connu, Lyndon B. Johnson, pour une particularité incroyable. Il aimait présenter Jumbo aux personnes qu'il rencontrait. Mais qui était Jumbo?
Son éléphant.
Chien.
Son éléphant.
Son éléphant, non.
Non, moi je propose sa bite.
Pardon?
Sa bite.
Bonne réponse de Stéphane Plaza.
Dès qu'il y a de la culture, je suis là.
C'est bon, c'est bon. Tu l'as connu personnellement?
Ouais, bah. Non.
Il était, ce président américain, obsédé par son pénis.
Ah, oui, oui.
C'était son sujet de conversation préféré. Il lui avait même donné un nom, Jumbo. Ouais. Et pendant 20 ans, on l'a raconté au Congrès aux États-Unis. Dès qu'il croisait un copain député, enfin, on dit pas député,
sénateur,
parlementaire américain, il venait, tiens, je vais te montrer mon Jumbo. Est-ce que vous avez déjà vu quelque chose d'aussi gros? C'était une obsession pour lui. Et il faisait même tournoyer Jumbo sous les yeux des journalistes ou de ses camarades qui n'en revenaient pas.
Mais il le montrait qu'aux hommes, pas aux femmes?
Aux hommes.
Ouais, il faisait l'hélicoptère.
Oui.
Oh, le gars qui parle comme un habitué.
Il lui avait donné un nom, vous?
Il y a la louloute qui sourit.
À vous, c'est la louloute.
Oui, parce que j'ai l'urètre à l'envers.
C'est-à-dire quoi, ça, l'urètre à l'envers?
J'ai une particularité.
Je comprends pas.
Mais voilà, puisque vous voulez qu'on ait la marque.
Et tu vois, je ne sais pas aller là-dessus.
Bon, bah, j'ai de malformation.
Je ne sais pas t'en parler, mais
oui,
ça m'avait étonné.
Elle sourit comme un smiley.
Ah bon, c'est bizarre.
Bah, ça sourit.
T'as consulté?
C'est impressionnant, hein.
Et ça se soigne?
Non, c'est plus embêtant pour faire pipi, parce que t'en mets un peu partout.
Tu mets un entonnoir.
La prochaine fois, je me baladerai avec mon entonnoir.
Je comprends pas très bien.
Moi non plus, je comprends pas.
Bah, excusez-nous.
Pourtant, je sais que vous en avez vu toutes les deux.
Au lieu que ça soit comme ça, c'est comme ça.
Excuse-moi, mais j'ai pas un œil dans la bouche. Hein.
Oh non. On va aller au jeu. On va aller au jeu.
Maintenant, il y a des caméras que tu peux t'introduire, donc tu peux vraiment voir. Maintenant.
Moi, personnellement, j'avoue que je ne comprends pas très bien ce que vous nous racontez.
Ah, merci.
Monsieur Plaza.
Bah, c'est clair. Non, au lieu d'être, comme on dit, là, c'est...
Montrez-nous.
C'est vertical. Au lieu, c'est un vertical.
C'est ça.
Ah oui.
Montrez-nous.
Hein, qu'on comprend pas.
Non. Non, mais je crois que tout ça, c'est parce qu'il faudrait que tu la sortes, maintenant.
Ça, c'est nous, et ça, c'est ça, lui.
Tu vois.
Tu comprends.
Voilà que Stevie fait des croquis, maintenant.
Montrez-moi, Stevie.
Mais lui, il a l'urette comme ça.
Comme ça, c'est ça.
Alors que nous, c'est un petit train en haut.
Vous voyez, il fallait vraiment qu'on ait un spécialiste. Une citation pour Patricia Servange, qui habite l'Essard-le-National en Saône-et-Loire, qui a dit « La télé, c'est formidable, toutes les places sont au même prix.
» Il est mort ?
Un Français ?
Un Français, oui. Mort, oui.
Il y a longtemps ?
Oh, écoutez, il est mort en 2008.
Oh. Galabru ?
Galabru, non.
Jacques Martin ?
Jacques Martin, non. La télévision, c'est formidable. Toutes les places sont au même prix.
Sim. C'était un chansonnier.
Chansonnier, non.
Gros humoriste.
Alors humoriste, oui, il était drôle. On peut pas dire qu'il fut humoriste, même s'il a beaucoup fait rire les Français.
Ah, Léon Zitrone.
Léon Zitrone, non.
Homme politique.
Homme politique, non.
Historique des grosses têtes.
Non, il a dû être invité de temps en temps aux grosses têtes à une époque, mais c'était pas une grosse tête.
C'était un romancier.
Romancier, non.
Il faisait rire à son insu.
Ah non, non, il faisait rire volontairement.
C'était un homme politique.
Un homme politique, non.
Chanteur.
Un peintre.
Chanteur, oui.
Chanteur, oui. Chanteur amusant.
Chanteur amusant. Pas seulement romantique parfois, mais aussi chanteur drôle.
Georges Moustaki.
Non.
Oh, il était vachement marrant, lui.
Bah, tu crois que t'es marrant, toi?
mais quoi, ses chansons étaient drôles?
Il n'y en a quand même pas 10 000 des chanteurs marrants.
Mais ses chansons étaient drôles?
Ses chansons étaient drôles.
Bézu.
Bézu, mais non.
Il est vivant.
Ah, c'est lui qui a fait à la queue leu-leu.
Il était ce qu'on appelait un fantaisiste.
Oui, mais il a aussi chanté des chansons plus douces.
Jacques Martin.
Ah, Salvador.
Henri Salvador. Henri Salvador, si je ne vous ai pas aidé, là, alors.
Oh, oui. Oh merde.
Ah mais oui.
Henri Salvador.
Bonne réponse, Isabelle Mergaud.
Oui, bonne réponse. Dire bah ou enfin, c'est tout juste si je vous ai pas donné le nom quand même. Hein.
Alors vous êtes gonflé parce que s'il lui donnait un indice, c'est que elle le trouve. Pourquoi t'as pas trouvé?
Ouais, voilà. Pourquoi t'as
je
pas
l'ai
trouvé?
Je l'ai hurlé sur le fil.
Oh, oh bah oui alors. Ah,
vous
auriez
mieux de nous interpréter la fameuse chanson douce, Isabelle.
Ah, oui. Et pas la chanson sous la douche.
Oh, ça va être la douche pour Pierre.
Vas-y.
Une chanson douce que me chantait ma maman en suçant son pouce.
Non.
Oh là là, on dirait
en suçant mon pouce parce que si il suçait son pouce.
Je viens de comprendre qu'elle peut pas sucer son pouce et chanter en même temps.
Arrête, on dirait Ariel Dombal quand tu chantes, c'est un cauchemar.
Oh. Bah, c'est flatteur parce qu'elle elle chante. Moi, j'adore cette fille, elle chante très bien.
Ah, je l'adore cette fille, mais j'aime pas comment elle chante.
Ah, non. Si, c'est vraiment elle
chante
bien.
Moi, je trouve elle qu'elle chante très bien, mais.
Oh ouais, mais...
Isabelle, savez-vous, vous ne savez sans doute pas que Mozart est mort très jeune.
Ouais, mais quand elle chante.
La flûte enchantée, enchantée, moi c'est la flûte.
Et quand elle chante aussi. Quand elle fait du lyrique, ça va, mais quand elle chante. Bésame, bésame mucho. Je veux dire, mais calme-toi, calme-toi.
C'est vrai qu'on vous confond souvent toutes les deux.
La blondeur.
Alors peut-être la voix, mais sinon je vois pas trop.
Si, la blondeur.
Mais pas la même morphologie. La
télé, vous savez avec qui on me confond?
Non, allez-y. Alors,
ça, j'en reviens.
Marine Le Pen.
Oh, Marine Le Pen, ça oui. Claire Chazal.
C'est pas.
Oh, mais j'allais le dire. Alors, j'allais
parce que
dire.
Le Paris Match est tombé dans la piscine, alors.
C'est pas extraordinaire, ça. Claire Chazal, souvent on me dit, oh là là.
Faut qu'on la prévienne. Hein.
Ouais. Moi-même, ça m'épate.
Qu'est-ce qu'ils ont?
Et puis après, toutes les humoristes, hein, c'est assez sûr qu'ils font une espèce d'amalgame.
Ah oui ?
On me dit, vous n'êtes pas habillé en rouge aujourd'hui ? Je dis, ah ben non, ça c'est pas moi, c'est Anne Roumanoff. Ah oui, d'accord. Il me dit, j'ai adoré votre sketch sur l'addition. Non, ça c'est pas moi, c'est Muriel Robin.
Et les gars qui parlent à troisième personne, ils te regardent et... Alors, il n'est pas aux grosses têtes aujourd'hui ?
T'as envie de dire, bah non, du coup, tu vois bien que je suis là. Mais
c'est bizarre ce qui vous arrive. Moi, je ne croise que des gens qui me disent merci pour ce que vous faites. Ouais.
Moi, il y en a un qui m'a dit quand même, alors ça m'a beaucoup vexé, qui m'a dit,
vous êtes ma speakerine préférée. Et dans mon village, la star, la vraie star, c'est Michèle Thor. Elle est tellement connue chez moi que tout le monde l'adore.
Partout.
Il y a un vieux monsieur dans mon village. Chaque fois que je descends le village, de loin, il me voit. Donc je suis un peu blonde comme Michèle Thor. Il s'illumine, il me dit oh, Michèle Thor. Alors j'ai dit non.
Mais ils sont aveugles,
non,
en plus, Claire. Chez toi.
Non, mais... Claire Chazal. Mesdames, messieurs, bonsoir.
Ah, tu aimes bien ton village.
Des gens qui vous prennent pour, à la fois Claire Chazal, Michèle Thor et Anne Roumanoff.
Mais oui.
Il y a un problème quelque part.
Non.
Mais le pire est à venir. Donc il me dit Michèle Thor, Michèle Thor. Et moi je dis non, mais monsieur Pélissier, c'est Charlotte de Turckheim. Et ben il me fait oh, ben tant pis.
La question concerne quelqu'un qui s'appelle Daniel Rosentrosch et qui collectionne quelque chose d'assez étonnant, au point qu'il en est fait un livre de photos où on peut voir quelques pièces de sa collection. Bon, il en a 2000. Il n'y en a pas, évidemment, 2000 dans le livre, hein, mais il y en a une bonne centaine qu'il a fait photographier. Et je peux quand même vous aider en vous disant que ce collectionneur est un coquillophile.
Ah, les coquelicots.
Non, c'est les bouteilles de champagne là. Les
pas du tout.
Les porte-clés.
Les porte-clés. Non.
Coquelicot.
Coquillo.
Non, coquillophile.
Ça a rapport avec le nom.
Ou cochliophile, si vous voulez le prononcer.
Ah, les chenilles.
Ah, les chenilles, non. Mais je crois qu'on dit coquillophile.
Je l'ai lu en plus, je le sais.
Ça a rapport avec des animaux, non?
Avec des animaux, non.
Est-ce que c'est volumineux?
Alors, il y en a de toutes les tailles. Et lui, il en a justement. C'est ça qui est assez amusant, voyez-vous, de toutes les tailles.
Un porte-clés. Est-ce que vous pensez que nous en avons chez nous?
Ah oui, ça forcément.
Tout le monde.
Ah, tout le monde, oui.
On des coquetiers.
Des coquetiers. C'est vrai qu'il y a des gens qui collectionnent les coquetiers.
Ah oui.
Oui, mais il n'y en a pas toutes les tailles. Un œuf, c'est un œuf, hein.
C'est pas con. Bah,
détrompe-toi. Parce que moi, j'en ai acheté. Ils sont toujours trop gros.
Ah bah, j'ai acheté un coquetier d'œuf d'éléphant, croyez-moi. Là, vraiment. Si je me souviens, cher Michel, ça me revient d'un coup parce que je connais quasi les billons de tous mes invités par cœur depuis des années.
Oui.
Eh bien, je crois me souvenir que c'est quelque chose qui devrait vous tenir à cœur si je me souviens de vos débuts, monsieur Boujna. Là, je vous aide, voyez-vous.
Des cochons?
Oh, bah, que pouf.
Oui, j'ai toujours été amoureux des cochons quand j'étais petit.
Des bretelles? Des bretelles?
Des bretelles, non.
Est-ce que c'est un objet usuel qu'on porte sur soi?
Non.
Est-ce que c'est un objet qui sert à faire quelque chose?
Oui, oui, ça, oui, donc, c'est utile.
Ça se trouve dans la cuisine?
Dans la cuisine, bravo.
Ah, le tire-bouchon?
Le tire-bouchon, non.
Les entonnoirs?
Les entonnoirs, non.
Des pots à eau?
Des pots à eau, non.
Est-ce que la racine peut nous aider? C'est coquelicot?
Un peu,
oui, un peu.
Des tabliers?
Des tabliers, non.
Ah, les limonadiers?
Comment ça, les limonadiers?
Eh ben, les décapsuleurs, les limonadiers.
C'est un limonadier, c'est un décapsuleur?
Ah, bah, quand je travaillais chez Pizza Pie, oui.
Les bouchons.
On disait, passe-moi ton limonadier.
Un limonadier, oui.
Pour ouvrir les bières.
Donc, les capsules.
Ouvrir les bouteilles de vin.
Mais c'est pas un tire-bouchon.
Les capsules.
Les capsules, non. Si monsieur Boujna se souvenait un peu de ses débuts.
Il a oublié.
Bah, oui. Ah, alors attendez. Ça a à voir avec la cuillère. C'est des cuillères.
Bonne réponse de Michel Boujna.
Je ne viendrai plus jamais. J'ai trouvé une réponse, il n'y a que ça qui m'intéressait.
Je vous ai un peu aidé quand même.
Énormément.
Vous vous rendez compte de ma mémoire quand même.
C'est formidable.
Je me souvenais que vous aviez une compagnie théâtrale qui s'appelait...
La Grande Cuillère.
La Grande Cuillère.
Oh là là.
Ouais, parce qu'il fallait une grande cuillère pour dîner avec le diable. Et comme on était tous des anciens militants politiques, le diable c'était les institutions, le pouvoir, tout ça. Et c'est une phrase de Brecht.
Daniel Rosentrosch, lui, il est un peu monomaniaque. Il collectionne les cuillères, on peut les voir dans un bel ouvrage de 284 pages, qui vous coûtera 49€ si vous êtes intéressé. Et il est coquillophile, c'est ainsi qu'on appelle les collectionneurs de cuillères. Et il a des petites cuillères, des grandes cuillères, des moyennes cuillères, des cuillères en bois, des cuillères évidemment de toutes sortes, des cuillères carrément même, vous voyez...
Mais en amour, il n'y a pas une position qui s'appelle la position de la cuillère?
Si, exactement. Si. Très pratique quand on est enceinte.
Ah bon, racontez.
Oh, bah oui, parce que comme on a
la
grossesse, le ventre, eh bien le partenaire se colle derrière vous comme des petites cuillères dans un... Voilà.
Voilà, c'est ça.
Ah, c'est pour ça
que il y en a qui se font niquer enceinte.
Oui. Cher ami, vous savez qu'il y a des gens qui niquent pas, hein, il y a des gens qui font l'amour.
Oui, ah aussi, c'est oui.
Il y a des gens qui payent pas.
Ou des gens qui font. Là, se transforme en l'autre, ça dépend.
Mais c'était pas un reproche, hein.
Oh là là, fais
on peut faire les deux.
Parce qu'il dit qu'il nique, mais il fait l'amour. Hein.
Oh là là.
Pour les gens, il va dire, oh, je nique. Mais après, il va faire, oh ma douce, je te fais l'amour.
Bien sûr.
Ouais. Tu connais cette histoire du bébé?
Non, je connais pas, je voudrais pas l'entendre.
C'est possible. C'est une femme, du coup, comme Caroline, qui faisait l'amour pendant sa grossesse, et puis elle s'apprête à accoucher, et puis t'as le bébé qui sort un peu comme ça, tu vois, il n'ose pas te ressortir. Et puis le médecin, il dit, je comprends pas, et il tarde. Et puis t'as le bébé, il passe son bras, puis il y a le père, il fait comme ça au père, il fait pss, pss, tu vois, signe, viens, viens. Alors le père, il s'approche de la maman, comme ça, il dit, qu'est-ce qu'il veut? Puis t'as le bébé, il fait pss, 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 pss. Alors il s'approche, puis le bébé, il sort sa tête, et puis il tape sur la tête de son père, il fait, parce que tu crois que c'est agréable, ça?
Qui est mort à la suite d'une infection d'un orteil, un orteil cassé après avoir donné un coup de pied à son...
Pardon, excusez-moi, j'ai éternué.
Ben oui, alors vous avez interrompu ma question, Claude.
Ouais, elle a éternué, le dentier est parti avec.
Un éternuement, tu peux pas le...
Vous avez éternué et le monsieur, là, au premier rang, a le pied qui s'est fait mordre. Non, enfin, Claude.
Ben oui, c'est parti.
Ben oui, faites attention, quand même.
Pardon.
Est-ce que vous êtes quand même capable de répéter la question que je viens de poser?
Non.
Ben alors, voyez... Qui est mort, je vais même vous préciser en quelle année, en 1911, qui est mort à la suite d'une infection d'un orteil cassé après avoir donné un coup de pied à son coffre-fort.
Alors c'est pas Lully, parce que lui il a eu la gangrène, mais bien plus tôt.
Et voilà, et c'était effectivement quelques siècles
avant. En battant la mesure.
Mais c'est comme l'oncle Picsou, alors c'est ça.
Pourquoi?
D'imagine avec un coffre-fort qui donne un coup de pied dans son coffre-fort, on imagine le mec colérique.
Mais là il s'agit de quelqu'un qui a réellement existé.
C'était une femme, un Américain?
Un Américain, oui.
C'était un financier?
Un financier.
Rockefeller?
Rockefeller, non.
C'était un homme très riche.
Oui, il avait fait fortune, effectivement.
Avec les pétales.
Forbes.
Ford, non.
Vanderbilt.
Colt,
non.
Mais c'était avec les pétroles ou avec la... qui avait fait fortune?
Ça n'était pas avec les pétroles qu'il
c'était
a fait fortune.
C'était pas Jerry Wing.
Non.
Il a fait fortune dans quoi?
Alors justement, je pense que plutôt que de donner des noms comme ça, sans réfléchir, parce qu'autrement, il ne vous viendra pas ce nom, réfléchissez plutôt comment il a fait fortune.
Avec la presse?
Avec la presse, non.
Est-ce qu'il a donné son nom à une marque?
Oui, monsieur.
Une marque qu'on utilise toujours aujourd'hui?
Tout à fait.
De vêtements?
De vêtements, non.
Boeing?
Monsieur Boeing.
Mais ça a fait Boeing quand ça fait mal.
Est-ce que ça a laissé son nom à du matériel industriel?
Du tout.
C'est un Américain?
Un Américain, oui.
Est-ce qu'on en a chez nous, à votre avis?
Un Américain du Tennessee.
Je sais. Jack Daniels.
C'est Jack Daniels. Bonne réponse!
Oh, bravo.
On l'a dit.
On l'a dit en même temps.
De Laurent Baffy et Stevie Boulet, Jack Daniels, qui effectivement a lancé ce fameux whisky, qui n'est pas tout à fait du whisky d'ailleurs.
C'est un bourbon.
Hein. C'est d'ailleurs le slogan de la marque, it is not scotch, it is not bourbon, it is Jack
Daniels.
Ce n'est pas un scotch, ce n'est pas un bourbon. Il faut dire que la marque fête son 150e anniversaire. Il mesurait 1m57. Voilà pourquoi d'ailleurs il avait toujours un chapeau sur la tête, un nœud papillon aussi pour masquer sa petite taille. Il mettait un chapeau haute forme, Jack Daniels. La marque fête ses 150 ans et il est mort en donnant un coup de pied, enfin pas tout de suite évidemment, mais des conséquences de ce coup de pied dans un coffre-fort.
C'est très con.
C'est très cool.
Vous qui avez appelé votre pièce Jacques Daniel, je voulais évidemment vous rendre
hommage. C'est gentil.
Vous saviez cette histoire?
Pas du tout, je l'ignorais totalement.
Après cette publicité gratuite, est-ce qu'on pourrait demander à la maison de Jacques Daniels de nous en envoyer une caisse? S'il
non,
vous
parce
plaît,
que nous,
merci.
Mais pourquoi
nous
il était en colère? Ça, on le sait.
Ah non, je ne sais pas pourquoi il était en colère. En tout cas, il a transformé la bouteille qui était ronde au départ en bouteille carrée en 1895. Il faut dire que ses parents l'avaient un peu abandonné. Il s'était réfugié chez un pasteur qui était évidemment quelqu'un spécialisé dans la distillerie de whisky. Et il lui a racheté. Et c'est ainsi qu'est née la marque qui porte son nom, parce que c'est son nom, Jack Daniels. C'est quand même incroyable, quand même, hein, comme histoire.
Mais si vous allez à Londres, vous allez au restaurant de l'ancien bassiste des Rolling Stones, qui s'appelle le Sticky Fingers, et vous pouvez prendre en dessert les sorbets au Jack Daniels avec une recette de Keith Richards.
Ah oui?
C'est quand même le seul endroit où j'ai repris 3 fois du dessert.
Vous aimez le whisky, Claude?
J'adorais, mais maintenant je suis passée... depuis que tu m'as emmenée à Cuba...
À l'alcool à 90, directement.
Non, au Havana.
Ah oui?
Oui, parce qu'il y en avait une bouteille dans ma chambre, tu sais, avec des fleurs ou des, je sais pas quoi, des fruits. Et dedans, il y avait une bouteille de rhum. Pas ouvert, mais je me suis dit, radin au moment de faire mon sac pour repartir. Oh, et j'embarque. J'embarque ma bouteille. Et je ne l'ai pas quitté depuis. Je la renouvelle deux fois par semaine.
C'était les, c'était les mémoires de Mamie Pochtronne.
C'est comme une perfusion.
Alors, j'ai, du coup, plus de whisky, plus rien. Le rhum, le rhum, le rhum. J'en mets dans mes yaourts, j'en mets partout.
Non, mais le rhum, ça défonce quand même. Hein.
Ben non, je supporte très bien.
Elle rodée. Hein.
Et alors, tu en trouves un Monoprix qui a 10 ans d'âge.
Elle vous fait rire, Claude Sarraute, Marcella Yacoub.
Ah oui, je suis absolument sous les charmes.
Oh, que t'es mignonne. Tu es jolie, tu es mignonne et tu as une voix d'amour.
Remets tes lunettes.
Une question pour Christophe Gobaille, qui habite Champs-sur-Marne, c'est en Seine-et-Marne. Qu'est-ce qui fait 9 cm, qui est toujours à l'abri et toujours mouillé?
Ah ben, il m'aurait dit 5 cm, je disais ma bite.
Monsieur Pierre, vous n'avez pas honte. Qu'est-ce qui fait en moyenne un 9 cm qui est toujours à l'abri et toujours mouillé?
Est-ce que c'est un thermomètre qui
serait... Thermomètre, non.
C'est un animal?
Non plus.
C'est un organe du corps?
Oui, madame.
La langue?
La langue. Bonne réponse de Michel Bernier, c'est la langue.
Ouais.
Une question culturelle maintenant pour Marie-Josée Schiano, qui habite 7 dans l'Hérault. Question littéraire, culturelle, puisque vous connaissez forcément le professeur Lidenbrock et son neveu. Quel voyage célèbre ont-ils réalisé?
Au centre de la Terre?
Voyage au centre de la Terre de Jules Verne. Bonne réponse! Vous l'avez lu, Voyage au centre de la Terre, oui. Marcella Yacoub?
Ah mais oui, quand j'étais enfant.
Eh bien, vous avez bonne mémoire, parce que c'est bien le nom des personnages qui vont partir en Islande, hein, faire ce voyage au centre de la Terre. C'est d'ailleurs un des rares livres de Jules Verne qui n'ait pas été réalisé, puisque... Le tour du monde en 80 jours, on l'a fait évidemment depuis. 20 000 lieues sous les mers.
On l'a fait.
On l'a fait. Ah bah si.
Bah, il y a eu un voyage au centre de la Terre.
Oui, oui, il y a eu un film.
Film américain des années 50, très, très colorisé. Ouais. Enfin, très. Bien sûr.
Pas les années 50, c'est peut-être
non,
plus
non,
tard.
Non, non, on l'a fait.
Il a dit. On n'est pas à la question, monsieur Lambron.
Rien
vous
fait,
vous comprenez rien, non, décidément, aujourd'hui.
Quelle est la question?
Je ne vous ai pas dit que ça n'avait pas été adapté au cinéma. Je vous ai dit qu'on ne l'avait pas fait en vrai.
En vrai? Le tour du monde à 80 jours, on l'a fait.
Ah. Marc, oui, j'ai l'impression
qu'il y a... rien, la
moi, viens avec moi, les
gens. Je pense qu'il
y a bien des spéléologues, il y a bien des gens qui sont allés
non,
très
non,
loin.
Non, 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 non,
alors,
non.
Bon
non,
camp.
Écoute-moi. Oui. Il y a longtemps que je viens dans cette émission, il y a des jours comme ça.
Non, c'est sûr qu'au centre de la Terre, ils trouvent des dinosaures, par exemple, dans le roman.
Oui.
Il n'y a pas de dinosaures au centre de la Terre.
N'essayez pas de noyer le poisson, monsieur Lambron. Ce qu'on vous dit, c'est qu'on a fait, on a réalisé, je ne vous parle pas au cinéma, en vrai, dans la vraie vie, on a vraiment réalisé le tour du monde, même en moins de 80 jours maintenant, aujourd'hui.
Oui.
Dans la vraie vie, on est allé 20 000 lieues sous les mers aussi, c'est ça c'est vrai. Voilà.
De la Terre à la Lune, c'est vrai aussi.
En revanche, en revanche, on n'est pas allé au centre de la Terre.
Oui, mais il n'a pas tort du 14 juillet, quand même.
Quoi donc?
Il n'a pas tort, il n'a pas tort, parce que justement, dans tous les autres livres de Jules Verne, on vérifie qu'il avait raison, que c'était un extraordinaire
futurologue.
Futurologue, c'est un clairvoyant. Or, dans le voyage au centre de la Terre, tout est faux, parce qu'il croit qu'il y a encore des animaux préhistoriques.
C'est ce que je viens de dire.
Donc, justement,
oui, ah bon.
Je te défends du con.
Ah, vas-y, vas-y, vas-y.
Le Muppet Show, là.
Sauf que tant qu'on n'y est pas allé, on peut on peut pas savoir.
Non. C'est ça, c'est ça.
C'est pas qu'il y a les dinosaures.
On sait jamais, il y en a bien ici.
Allez, fais venir l'invité parce que je me crois.
Prévenez l'invité qu'ici aussi, c'est Jurassic Park. Hein.
Pour vous,
une question plutôt culturelle.
Ah, c'est pour moi.
Oui. Oh, alors là, ça m'étonnerait que vous... Alors là, vraiment, je...
Allez,
Jean, écoutez.
Faites attention quand même.
Je suis prêt à vous donner 10 000 euros si vous trouvez la réponse.
Ah, t'es fou. Et
oh là,
et mais tu sais,
tu dis...
On va pas dire ça à un agent immobilier.
Alors là, il n'y a aucune chance.
Attends, Stéphane...
L'agent immobilier, il accepte s'il est...
Attention, je parle pas des autres, je parle de Plaza.
Bien sûr, mais vous avez demandé au public de ne pas souffler, mais pas aux sociétaires.
Oui, nous, on peut rentrer, les gars. On peut rendre service à Stéphane.
Je suis concentré.
Ah non, bah vous non plus.
Et elle gagne quoi, Daniel?
20 000.
Oh la vache.
Bon, Laurent.
Et moi, Laurent, j'ai le droit ou pas?
Ah, vous, ça peut... Vous, on sait jamais.
Laurent, allez, peut-être moins con que j'en ai l'air.
Avec vous, je me méfie.
C'est-à-dire que je serais plus con que Beaugrand.
Je là, quand même, on va loin.
C'est vexant.
Oui, ouais. Mais vous avez un avantage, c'est que vous ne chantez pas.
Ah, j'ai pas encore chanté, mais j'ai vu.
Non, Perroni, Ben Guigui, Gueluc peuvent trouver.
D'accord, nous, on prend la partie Turel.
La question est toute bête, c'est la réponse qui est compliquée, évidemment.
Pour moi, rien n'est compliqué.
Laetitia Weiss, qui habite Varade, a en tout cas une chance de toucher 300 euros. Qui fut le premier prix Nobel de littérature?
Oula.
Oui, alors là, effectivement, je passe mon... Non, mais effectivement, je passe alors, mon tour, j'en fais 10 000 euros.
Est-ce que c'était un Français?
Un Français, oui.
Mort.
Le premier lauréat du prix Nobel de littérature en 1901. Oui, mort.
Romain Rolland.
Oh, Romain Rolland, non.
Frédéric Mistral.
Non plus.
Jean-Pierre.
Mais c'était un poète.
Ah.
Monsieur Perroni, vous
Paul
êtes déjà
Fort.
Sur la bonne voie. Paul Fort, non.
Est-ce qu'on apprend ses poésies à l'école?
Ah, si vous voulez, je vous en donne une.
Oui, ah, oui, volontiers.
Oh, oui, c'était pas Lamartine, il n'était pas né.
Et puis vous lisez bien, chef.
Ça s'appelle Le vase brisé.
Oh. François Copé.
Ah, bah c'est
François Copé.
François Copé, non.
C'est Clovis,
le vase brisé. Maurice Genevoix.
Non, Le vase brisé.
Paul Valéry.
Dis-nous le poème.
Le vase où meurt cette verveine d'un coup d'éventail.
Oh, Paul Verveine.
Non. Ça, c'est drôle.
Ah, elle a des restes, hein.
Verveine et Rambeau.
Le vase où meurt cette verlaine. Le vase où meurt cette verveine d'un coup d'éventail fut fêlé. Le coup dut l'effleurer à peine, aucun bruit ne l'a révélé. Mais la légère meurtrissure, mordant le cristal chaque jour, d'une marche invisible et sûre, en a fait lentement le tour. Son eau fraîche a fui goutte à goutte. La sue des fleurs s'est épuisée. Personne encore ne s'en doute, n'y touchait pas. Il est brisé. Souvent aussi, la main qu'on aime, effleurant le cœur, le meurtrit. Puis le cœur se fend de lui-même, la fleur de son amour périt. Toujours intact aux yeux du monde, il sent croître et pleurer tout bas sa blessure fine et profonde. Il est brisé, n'y touchez pas.
José Maria de Heredia.
Non.
Est-ce que les
c'est
jeunes.
C'est beau, hein, quand même.
Oui,
c'est beau.
Est-ce que les jeunes le lisent encore aujourd'hui?
Et puis c'est surtout très bien lu.
Oh, oui, merci, ouais. Monsieur Perroni. Et c'est vrai qu'il a créé, vous m'avez cité, monsieur Ben Guigui, José Maria de Heredia. Heredia. C'est pas bête parce qu'il avait créé avec lui la Société des poètes français.
Ouais. Est-ce qu'il a un nom composé?
Oui.
D'accord.
Des Valmore?
Non, c'est Jean Boissy d'Anglas.
Non.
Honnêtement, vous connaissez le nom? Mais vous avez une culture immense. Oui. Est-ce que le nom est encore dans l'imaginaire collectif?
Oui, est-ce que tout le monde le connaît?
Oui, c'est qu'on sait qui c'est sans savoir vraiment qui c'est.
Ah, il a une rue.
Ça, oui, il a une rue.
Une impasse.
Dans quel arrondissement?
Attention,
combien le mètre carré? Quel étage? Combien de mètres carrés?
Et puis,
exposition sud.
Il a écrit quelques essais philosophiques aussi, mais c'est surtout pour sa poésie qu'on le connaît.
Quelques essais?
Enfin, qu'on le connaît ou qu'on le connaît pas, d'ailleurs.
Est-ce que ça a un rapport avec un éditeur? Il n'a pas un nom d'éditeur?
Du tout.
Pierre Sémard?
Non. Il aurait plutôt un nom de... Non, mais j'ai
un nom de quoi? Allez au bout, vous avez failli. Allez-y.
Non.
Un nom de quoi? De médecin?
Je laisse à madame Laetitia Weiss, qui habite Varade, la possibilité de toucher un chèque de 300 euros.
Oui, enfin, vous faites surtout perdre à la station 300 euros.
Théophile Gautier?
Théophile... Oh, l'autre.
Bah, je tente les noms de rue.
Mais
hein.
Non, mais cher,
c'est dans le 16e arrondissement.
Des noms composés, genre Lévi-Strauss, c'est un nom composé, par exemple. Mais bon, c'est pas ça.
L'autre, il m'appelle l'autre. Il m'appelle même Pujot, il m'appelle l'autre.
Bon, bah, c'est. Aïe, aïe, aïe.
Et c'était Sully Prudhomme.
Mais bien sûr, il est connu, con.
Oui, bon.
Sully Prudhomme, oui, 300 euros pour notre auditeur et moi j'économise 10 000. Une question opéra pour Ariel Dombas. Il faut quand même qu'Ariel brille aussi un peu dans cette émission.
On peut la sticker. Hein. Prends l'image.
Oh Bernard.
C'est King Kong.
Excuse-moi Ariel, excuse-moi.
On dirait pas non, ouais, on la stick un peu Ariel.
Non,
Non, mais qu'est-ce que vous entendez exactement derrière ce mot? Voilà.
Ben, vous faire prier.
On l'entend devant aussi.
Vous faire prier, Ariel.
C'est un opéra de Wagner dont je vous demande de retrouver le titre maintenant. Un opéra de Wagner dans lequel la soprano s'appelle Senta, le ténor Eric. Ils sont fiancés l'un et l'autre, mais quel célèbre opéra de Wagner a pour héros principaux Eric et Senta?
Je crois que c'est Les Anneaux de Nibelung.
Pas du tout.
Pas du tout.
Ce ne serait pas Le Seigneur des Anneaux?
Du tout. Un opéra qui d'ailleurs est au départ une légende, hein, Wagner.
Lorelai.
Lorelai, non. Wagner a évidemment mis en musique cette légende. Légende qui a été reprise aussi au cinéma dans une longue série à succès qui a cours encore aujourd'hui d'ailleurs.
Série...
Plus belle la vie.
Une légende.
Oui, une légende.
Bon, Tristan et Isolde, c'est évidemment une légende aussi.
Mais ce n'est pas Tristan et Isolde. Et je vous dis, il y a une série au cinéma qui fait un carton.
Barbe bleue.
Qui s'inspire de cette légende Barbe bleue.
Les Tudors, donc.
Non.
Ah, une ça série pourrait... au cinéma.
Oui. Okay.
Les Talons Noirs.
Écoutez, le deuxième ami que vous avez ramené à vos parents.
Ouais, bon, ça, on va pas raconter ta vie de toute l'émission non plus.
Il a ramené le grand blond avec les talons noirs.
Mais c'est un Disney, on est d'accord.
Ah oui, c'est la Mulan.
Mulan, non, c'est un Disney. Je crois que ce sont les studios Disney qui produisent le film, mais ça n'est pas un dessin animé.
Shrek.
Oui. Shrek,
mais
non.
C'est pas un dessin animé, ça, on a dit. Les 101 Dalmatiens.
Wagner n'a pas fait un opéra des 101 Dalmatiens.
Beethoven.
Pardon.
Beethoven.
Ah, Beethoven.
Beethoven.
Le chien.
Beethoven.
Le chien. Beethoven.
Oui, mais Wagner. Le chien Beethoven.
Enfin, c'est très con ce que vous dites, Bernard Mali.
Mais ça serait marrant que Wagner ait fait un truc sur Beethoven.
Non, Beethoven. Vous trouvez pas? Attends, cherchez les films de Disney.
Mais je ne fais que ça, là, je cherche.
Eh ben, Les Pirates des Caraïbes ou...
Ah, ah, ah.
Le Vaisseau Fantôme.
Le Vaisseau Fantôme. Ah. Bonne réponse. Bonne réponse d'Ariel Dombal. Alors attention, ce n'est pas la réponse complète, cher Ariel, car l'opéra de Wagner s'appelle pas seulement Le Vaisseau Fantôme, il s'appelle aussi le
The Flying Dutchman. L'ouverture.
Alors, vous l'avez dit, heureusement, on aurait préféré la fermeture.
Vous pouvez pas trouver des questions sur les Rolling Stones ou des trucs comme ça.
Le vaisseau allemand.
Mais alors, attendez, parce que là, Ariel Dombal a donné effectivement le vrai titre, mais en américain. En américain, ça s'appelle
The Flying Dutchman.
Alors, The Flying Dutchman, mais oui. Sauf que Wagner n'était pas américain, donc comment ça s'appelait au départ?
Oui. Oui, c'est un autre nom encore.
Et
oui. L'homme volant.
Allez-y.
L'homme volant allemand.
Alors, pas l'homme volant, mais vous avez volant, ça c'est bon.
L'allemand volant.
Pas l'allemand volant.
Le cheveu volant.
Non.
Boire au volant.
Non, non.
Le Bosch volant.
Parce le Prussien volant.
Non, parce que ce n'est pas allemand au départ, la légende. Elle ne vient pas d'Allemagne.
Ah, l'italien volant.
L'autrichien volant.
C'est quelque chose qui existe de moins en moins chez nous en France.
Enfin, ça, c'est un truc volant. Tu dois le savoir,
bah,
toi.
Oui, mais de moins en moins en France, il dit.
Est-ce que c'est un engin qui vole en ogive?
Je vous dis qu'il y en a de moins en moins en France.
Montgolfière.
Ça vient pas d'Allemagne, mais d'un pays d'à côté de l'Allemagne. Cette légende du vaisseau fantôme. On
ça vient d'Espagne.
Non.
À côté de l'Allemagne.
Bah ouais. Il est bon,
c'est pas loin.
L'abeille. Il y a moins d'abeilles en France. L'abeille.
Il y a moins de partout. Il y a
des morpions.
Ça, il y en a moins.
Et Wagner.
Un pays tout près de l'Allemagne. Ce n'est pas l'Allemand.
La Suisse.
Ce n'est pas l'Allemand.
C'est la Hollande.
Alors c'est le.
C'est le Hollandais volant.
Le Hollandais volant. Bonne réponse.
Ah, c'est beau, ça. Effectivement, il y en a moins.
Mais je croyais que vous la vouliez en allemand. C'est pour ça que je cherchais.
Oh là.
Comment ça se fait qu'il y a... Pourquoi il y a de moins en moins de Hollandais volants?
Des gens qui votent pour François
Hollande. De Hollandais votants chez nous.
Ah ouais.
Quel est le titre en allemand? Je ne me rappelle plus.
Der Fliegende Holländer.
Voilà, mais ah je oui, cherchais Hollande. Ça.
Quoi?
Le Fliegende Holländer. Mais je cherchais ça.
Mais pourquoi vous ne l'avez pas dit?
Mais j'ai dit Flying Dutchman, oui, en anglais.
Mais ce n'est pas Dutchman, c'est Hollandais, ce n'est pas allemand.
Oui,
vous voyez,
c'est ça. Oui, mais eux, ils ont traduit Dutchman, en tout cas.
Vous parlez plusieurs langues, vous-même, Jean-Phi?
Oui, le ch'ti parfaitement, incroyable.
Non mais un steward, ça doit parler plusieurs langues.
L'anglais absolument couramment.
How is your English? Just try. I want to hear.
It's a bit difficult, but I try to speak with the other people.
Oh no, it's very pretty. You have a French accent in English. It's very pretty, the ch'ti accent in English.
Non, les gens disent, oh, so cute.
They are so cute, that's what they say about you.
J'adore l'accent français, finalement, les Américains.
Bah oui, c'est vrai.
Nous, on a des petits carnets pour faire les annonces, donc les annonces sont écrites en français, en anglais, on lit les annonces. Mais alors, quand il s'agit de parler couramment, je vois des hôtesses, mon Dieu. Yes, we try to find a solution for your luggage, and perhaps we will find it.
C'est vrai que tout de suite... On leur demande pas de parler.
Mais alors, quand elles prennent le bouquin et qu'elles ont le texte en anglais, alors là, t'as l'impression qu'elles jouent un film. Elles font « Ladies and gentlemen !»
Ça peut aller, écoutez bien, de 3 jusqu'à 17 triangles. Mais hein? De quoi s'agit-il?
Hein? Le code de la route?
Pardon?
Dans le code de la route?
Dans le code de la route, non.
Mais c'est comme une monnaie, on s'échange des triangles.
3 à 17 triangles.
Dans un jeu de société.
Dans un jeu de société, c'est pas bête ça, Chantal, bravo.
Oui, je sais.
Alors, le triangle. Est-ce que ce serait dans le ciel?
Mais ça n'est pas ça du tout.
Est-ce que ce serait dans le ciel?
Dans
vous
le ciel.
Vous savez parfois les étoiles, elles forment des triangles.
C'est bien aussi, je vois le poète rêveur que vous êtes.
Oui, tout à fait.
À regarder le soir, ouais. Les étoiles
exactement.
Dans le ciel.
En attendant qu'elle arrive.
Écrire des poèmes.
Et elle vient pas.
Non, elle vient pas.
Et alors, du coup, est-ce que c'est symbolique ces histoires de triangles? Là, ce sont des petits triangles qui symbolisent quelque chose?
Non, ça ne symbolise rien. En tout cas, ça n'est pas dans le ciel non plus.
Ce sont des constructions à Singapour?
Et alors, il y a des immeubles où il y aurait 3 triangles et d'autres 17.
Bah oui, ouais.
C'est dans la culotte des femmes quand elles se font le maillot.
Oh, oh mon Dieu.
C'est mathématique.
Ah, les tableaux de Vasarelli.
Ah voilà, ça c'est pas...
C'est pas loin ça.
Ah,
non, c'est
ça,
pas,
ça,
c'est pas
c'est lié à là.
En plus, il y a une,
y a une
expo à
Beaubourg,
d'où l'actualité, d'où ma question.
Exactement. Et,
mais
c'est pas ça.
Et c'est pas ça. Et
ça pourrait être Calder aussi, si c'est un peintre.
Mais ça n'est pas Calder.
C'est lié à l'art ou pas?
Ce n'est pas du tout lié à l'art.
D'accord.
C'est lié à la bouffe?
Pour l'instant, on n'est pas trouvé encore le domaine. Vous avez dit
la le cuisine. Domaine, c'est mathématique à ce moment-là.
Ça se mange.
Pas la bouffe, ça se mange.
À l'alimentation.
C'est lié à la bouffe, comme dit un peu trivialement Monsieur Gisbert, ou l'alimentation, comme le dit plus finement notre amie Mademoiselle
Latsou. Plus finement, oui.
Une différence de classe.
La finesse, c'est ce qui la caractérise.
Mais en revanche, qui m'a parlé des triangles?
Les sandwichs SNCF.
Vous pensez qu'il y a 17 sandwichs dans les paquets que vous achetez? Non.
C'est la forme de quelque chose qui se mange.
Oui.
Des Haribo, par exemple.
Des Haribo, non.
C'est sucré ou c'est salé?
C'est sucré.
Ce sont des bonbons.
Les berlingots de lait. Les
triangolini.
Les berlingots de lait. De Nancy.
Les bêtises de Cambrai.
Les briques à l'œuf.
Non mais vous ne réfléchissez pas à la question avant de donner vos réponses. Alors d'abord les briques à l'œuf, qu'est-ce que c'est que ça?
C'est parce qu'on les plie en triangle.
Oui, c'est vrai.
Il y aurait 17 triangles.
Et ben quand on a très faim. Ça dépend combien de gens on reçoit, c'est marrant. Toi.
C'est un mets assez cher.
Je peux même vous dire, c'est pas assez cher.
Est-ce que c'est de saison en ce moment? C'est la saison
c'est toute
de
toute l'année.
Des pâtes de fruits?
Des pâtes de fruits, non.
Est-ce que ça pousse sur les arbres?
Est-ce que je peux vous dire qu'il y en a parfois 3 triangles? Je vais vous aider un peu. Parfois 9, parfois 11, parfois 12, parfois 15 ou parfois 17.
Mais parmi chocolat. D'autres choses.
Ah, c'est chocolat, c'est du chocolat.
C'est du chocolat.
Comme des pétales de fleurs.
Ah, bah c'est les pétales qu'on met sur les gâteaux, là. Les
gâteaux. C'est dans une boîte de chocolat, donc il y a plusieurs chocolats. Dont des triangles.
Non.
Quality Street.
Mais c'est du chocolat qui sert pour la pâtisserie ou c'est du chocolat qu'on achète? C'est du chocolat qu'on achète?
C'est du chocolat qu'on achète.
C'est du chocolat de grande distribution?
C'est du Toblerone.
C'est dans les pâtes de Toblerone. Ah, oui. Bonne réponse de Chantal là-dessus.
Quel talent.
Bravo.
Eh oui, dans une seule barre de Toblerone, mais fait qu'il y a plusieurs tailles de Toblerone. Vous avez les mini Toblerone où là il n'y a que 3 triangles et ça peut aller jusqu'à des barres de Toblerone qui font 750 grammes.
Ah, vous dites Toblerone.
Et là vous avez 17 triangles.
Vous dites Toblerone.
Toblerone. Comment vous dites-vous?
Toblerone.
Bah tu fais comme tu veux.
Toblerone.
Ah non mais tout le monde dans le mini bar dans un hôtel, qu'est-ce qu'on mange?
C'est toujours dans les hôtels qu'il y a des Toblerone.
On n'en mange pas ailleurs que dans les hôtels.
J'avoue. Dans les hôtels.
Avouez, monsieur Benichou.
Est-ce que, franchement.
Dans tout le tax-free shop, dans les aéroports, t'as les Toblerone.
Ouais, et
parfois
des géants.
Est-ce que quand vous allez à la réception, quand vous allez payer votre note et que la dame vous dit est-ce que vous avez pris des. Est-ce que vous dites la vérité? Franchement.
Bah, on n'est pas comme toi.
Moi, je la dis pas souvent.
Toujours.
Non, bah oui, bah.
Moi, je dis toujours la vérité, évidemment.
Et souvent, ils nous l'offrent, d'ailleurs.
Ah bon?
Ah oui, j'ai pris un Toblerone. C'est pour nous, madame.
Ah oui, mais parce que tu es une star. C'est parce que c'est une star.
Vous dites comme moi, vous avez dit Toblerone.
Oui, Toblerone.
Ah, voyez.
Et non, pas Toblerone.
Non, mais la mignonnette, elle est offerte.
Non, la bouteille d'eau. Tu confonds.
La mignonnette, qu'est-ce que vous appelez la mignonnette?
Bah, les petites bouteilles s'appellent les mignonnettes.
Les mignonnettes, les petites bouteilles.
Il n'y a rien d'offert dans le minibar, monsieur Bénichou.
C'est pour ça que. Dans quel genre de taudis vous allez?
C'est pour ça que dès qu'il y a un déplacement, c'est moi qui paye vos extras. Vous voyez?
Oh, j'aimerais.
Ouais, quand il demande un oreiller supplémentaire, vous voyez ce que je veux dire?
Ah oui.
Vous connaissez le code?
Ah oui.
Ah bah voilà.
Ah c'est ça?
Bah oui, quand on demande un oreiller supplémentaire dans un grand hôtel, généralement on te ramène une pute.
Et, ah bon? Voilà. Ah d'accord, bah j'ai pas compris pourquoi elles sont arrivées à deux. Là.
Surtout le problème, c'est quand vous avez demandé avec un gros Toblerone.
Toblerone, mon cher Laurent.
Vous pouvez donner un petit coup de coude à Pierre Bénichou, Chantal, de temps en temps, voilà. Voilà. Elle lui a dit réveille-toi, on est arrivé.
C'est génial.
Mais qu'est-ce que tu fais quand je suis pas là?
Pierre, vous êtes censé être là, je suis désolé.
C'est la nuit qu'on dort.
Ça va, il a la tête du mec qui vient d'être réveillé par une momie.
Ça va, Pierre?
Monsieur Gisbert, faites quelque chose, c'est un ami à vous.
Oui, allez, Pierrot. Allez.
Ah oui, même beaucoup de convictions. Ouais.
C'est désagréable d'être réveillé. Toi. Foutez-lui la paix. Moi, je réveille pas les gens quand ils dorment. Hein.
C'est vrai.
Ah non, jamais.
Tu viens de le faire.
Je sais qu'il m'est arrivé de dormir. Mais là, je ne dormais pas du tout. Non. Je me disais, mais qu'est-ce que jusqu'à quand je vais rester avec ces cons?
Quel est le vrai nom sous lequel on connaît René-Antoine Ferchaud, qui fut scientifique, naturaliste, né à La Rochelle en 1683, mort en 1757, il avait donc 74 ans, après avoir fait ses preuves en tant que physicien naturaliste français, scientifique admis à l'Académie des sciences. Je peux même vous aider, c'est une grosse indication que je vous donne.
Attendez.
Vous aider en vous disant que il a dirigé l'édition de la Description générale des arts et métiers.
Non, ça m'aide pas.
Moi, je vais le poser.
Mais il ne dédaignait pas non plus l'histoire naturelle des mollusques, des crustacés, des insectes et des oiseaux. Quel est son nom? Nom que tout le monde connaît.
Camille Flammarion.
Pas du tout.
Lamarck?
Lamarck, non.
Colincourt.
Mais vous êtes sur une bonne piste, mon cher Baffy.
Ah, on est dans le 18e alors.
Parce que c'est vrai, non, non. C'est vrai que le fait que je vous ai dit qu'il avait dirigé l'édition de la Description générale des arts et métiers, ça pourrait vous
aider. Colincourt.
Colincourt, non.
Buffon.
Buffon, non. Non.
Sa rue est près du Jardin des Plantes.
Ah, sa rue, on la connaît, sa rue, c'est vrai.
C'est la
vrai.
Rue Poliveau.
Poliveau, non.
Est-ce qu'il a un nom et un prénom? Je veux dire, est-ce qu'on connaît son prénom aussi?
Ah bah, en fait, il s'appelait...
Il s'appelle René-Antoine.
René-Antoine Ferchaud, de quelque chose, et on l'appelle uniquement, effectivement, par son nom derrière la particule. Ah.
Ça peut pas être la Rochefoucauld, ça aurait aucun rapport.
C'est pas la Rochefoucauld.
Deux syllabes.
Ça se tentait.
Deux syllabes, non. Trois, monsieur Baffy. Trois syllabes.
Et on le connaît, je veux dire, son nom, il est vraiment connu.
Ah, ça, à Paris, vous connaissez son nom, c'est sûr.
De Montalembert.
Montalembert, non.
Il y a un parc.
Je vous ai aidé en vous disant qu'il avait tenu, dirigé l'édition de la Description générale des arts et métiers.
Ok, donc il y a un livre très connu qui porte son nom.
Mais non.
Mais non.
Il y a un bâtiment.
Arts et métiers, ça veut dire que arts et métiers, c'est au métro.
Son nom.
C'est au métro, arts et métiers.
Oui, oui, c'est lui qui a inventé Rambuteau. Le métro aussi.
Rambuteau, non.
Ah, mais on est dans le coin, attendez. Je prends mon plan de Paris. Oh là là, je suis au bout du rouleau.
On est dans le Marais.
Non, si vous connaissez la station de métro Arts et Métiers.
Bah non, c'est ce que j'ai peut-être allé là-bas.
Pelletier.
Pardon.
Pelletier.
Pelletier, non.
C'est vers la Bastille, entre République
pas
et Bastille.
Pas du tout.
Non, Arts et Métiers, c'est...
Bah vers Beaubourg.
C'est vers les Halles.
C'est pas loin de Beaubourg.
C'est Châtelet.
C'est pas loin des Halles, c'est pas loin de Beaubourg, Arts et Métiers, effectivement.
C'est monsieur de Châtelet, la raison.
Monsieur de Châtelet, non.
Il a... Monsieur les Halles, monsieur Beaubourg.
Station de métro, Laurent.
Monsieur Beaubourg, non.
Il a une station de métro à son nom?
À moitié, oui.
Ah,
Strasbourg-Saint-Denis.
Non.
Attendez, attendez.
Bonne nouvelle.
Non.
Mauvaise nouvelle. Pas de nouvelle du tout.
Vous voyez,
Saint-Paul.
Tout le monde connaît son nom et enfin, vous saurez donc qu'il
Saint-Paul.
Était naturaliste, spécialiste des mollusques, des crustacés, des insectes et des oiseaux, mais qu'il avait aussi fait une sorte de bottin des arts et métiers en France, académicien.
Voilà. Ledru-Rollin.
Ledru-Rollin, non. Membre de l'Académie royale des sciences, de la Royal Society, de l'Institut...
Il est sur la, il est sur la 3 ou sur la 9?
Je connais pas tous les numéros de ligne de métro, Madame Diamant.
moi non plus.
Ça commence par un M.
Non, mais écoutez, on n'est pas au pendu ici, je vous ai dit, monsieur.
Par un P.
Monsieur Baffi. Ah bah, je suis bien content. J'avais dit que je distribuerais un chèque RTL. Voilà, c'est pour maintenant.
Est-ce que vous pouvez faire un jeu de mots avec son nom?
Ah oh, oui, ça, on peut faire
ah bah,
plusieurs
faites-le,
jeux de
faites-le.
Mots. D'ailleurs, ça peut concerner nos amis Perroni tout à l'heure et Kersauzon qui étaient face à notre chère Karine Le Marchand.
Ah, ok, ok, vieux satire.
Oh, tu connais un métro qui s'appelle comme ça?
Châteaubriand.
Fille du calvaire.
Fille du calvaire. Non, fille du calvaire, non. Il vous reste 30 secondes.
50 la pipe.
Ah, non.
Attendez, attendez.
Ah bah j'ai piégé Perroni.
C'était des voyeurs, attendez, ils étaient en voyeurisme.
Non mais un naturaliste, je devrais le connaître.
Eh oui, un naturaliste, vous m'avez demandé une question
bien
zoologique.
Bah,
je vous dis que c'est le roi des mollusques.
Ça commence par quelle
lettre? Des oiseaux, des insectes.
Ah. François Hollande
lettre, il est né à La Rochelle, il est mort dans son domaine de la Bermondière, à Saint-Julien-du-Terrou, vous voyez.
Ouais. Alors, donnez la première lettre maintenant.
Alors, c'était un R, la première lettre, un R.
Rambuteau.
Non, Rambuteau, vous me l'avez déjà dit, et c'était tel que messieurs de Kersauzon et Perroni étaient positionnés face à notre amie Karine Le Marchand, Réau Mur.
Oh merde.
Oh bravo.
Moi je trouve que Bernard est très sexy avec son manteau en cuir là.
Ah je suis gelé, moi je suis gelé.
Ah, bon. Ah oui, mais c'est vrai qu'il fait froid, hein, mon oh, bon Bernard.
Et pourtant j'ai de la graisse. Hein.
Oh, de moins en moins. Moi je trouve que si Bernard Mabille continue à maigrir, on va plus le voir.
Ah, c'est vrai qu'il a maigri. Hein.
Petit à petit sous nos yeux.
Ouais, souvent sur la front.
On va le confondre avec Ariel Dombas.
Oh, dis, ça va quoi.
Oui, j'ai dit.
Il maigrit, il est froid, c'est la fin. Philippe, vous pourrez peut-être récupérer le blouson noir de Bernard Mabille comme mais ça.
Oui, je trouve très très saillant.
C'est vrai que le plus rock'n'roll des deux n'est pas celui qu'on croit.
Ah, il aime le rock, Bernard.
Ah bah oui.
Ah Bernard.
Ah bah oui. Eddie Mitchell et les chaussettes noires.
Ah oui, oui.
Moderne.
Et vous alors, votre week-end, Christine, bravo.
Moi, bah, mon public sait, j'ai accouché des vaches.
Pardon?
T'as quoi?
J'ai accouché des vaches.
Comment ça s'appelle ça vélé, hein.
Quoi, tu fais l'amour, l'amour
accouché
dans
d'une vache?
Je me promenais dans un champ.
T'as la morflée, Karine Le Marchand.
Et j'ai vu donc une vache avec un gros bout qui sortait de.
On a compris.
Voilà, mais le veau était né et il restait le placenta, tout.
Dans
bon, j'ai été obligé de m'y coller, quoi.
Mais attends, tu dirais que t'es rentré dans un champ pour essayer de dégager
non,
le placenta d'une vache?
Non, excuse-moi. Moi, j'ai des champs. J'ai un moulin.
Ah bon?
T'as un oui, moulin, mais
par contre, un moulin avec des champs.
Et des vaches.
Ah bah, et il y a des vaches sur un de mes champs.
Mais moi, je croyais que t'habitais sur une péniche.
On comprend rien.
Putain, la vache.
Ah, c'est pour ça qu'on t'appelle moi moche et méchant.
C'est nouveau, la voilà, agricultrice maintenant. Ça, la semaine dernière, elle était encore navigatrice. Vous allez voir que la semaine prochaine, elle sera spationaute.
Non, viticultrice.
Enfin, vous nous faites à chaque fois des nouveautés.
Eh ben non, mais ça peut arriver à tout le monde. Vous-même avez eu une propriété à la campagne.
Oui.
Et des fermages.
Oui.
Vous aviez... Il avait
ah non, elle a le vocabulaire.
Il allait récupérer...
Quand on dit fermage au-dessus de 350 hectares.
Vous avez jamais aidé une vache à accoucher, Laurent?
Ah si, peut-être, avant qu'elle soit ministre.
Oh non.
Oh là là là.
Mais enfin, ma fille, mais qu'est-ce qui vous prend aujourd'hui?
Mais il se réveille.
Ah, il a passé un bon week-end, il s'est bien reposé. Hein.
Je crois qu'il est temps de passer une première citation pour Frédéric Ignace Pierucci, qui habite le plan de la Tour, dans le Var, qui a dit « J'ai consulté deux médecins. Le premier veut m'envoyer à Pau pour une maladie de foie et le second à foie pour une maladie de peau. »
Pierre Dac.
Pas Pierre Dac.
Mais c'est l'autre
Blanche. Francis Blanche, bonne réponse de Bernard Mabille. Pour Léo Quête-Glace, qui habite Paris 2e, qui a dit « Quand le baromètre se passe la patte derrière l'oreille, c'est que le chat est à la pluie. »
Coluche?
Oh, c'est génial. Vialat?
Desproges?
Non, non, c'est quelqu'un qu'on cite plus rarement, et généralement, c'est Bernard Mabille qui retrouve
son.
Légaré,
un Français? Ce serait pas Christine Bravo, qui est spécialiste des animaux?
Non, non.
Maurice Orgue?
Un Français.
Non, mais c'est un surréaliste.
Capu?
Un surréaliste, oui. Il était d'ailleurs caricaturiste.
GB.
Non.
Léo Campion.
Léo Campion. Bonne réponse de Bernard Mabille. Et la question concerne La Pérouse à l'occasion de la sortie d'une nouvelle biographie concernant ce grand marin, Le Voyage sans retour. C'est ainsi que s'appelle ce livre de Gérard Pioufre aux éditions Vuibert. Monsieur Pioufre a consacré tout un livre donc à ce marin Jean-François de La Pérouse qui, à l'initiative du roi Louis XVI, évidemment, parti avec deux bateaux en expédition autour du monde, mais hélas ne revint, vous le savez, jamais, jamais il ne revint de cette expédition. Mais ma question est toute simple, elle est culturelle et historique. Pouvez-vous me donner les noms des deux bateaux de monsieur de La Pérouse ?
Il n'y avait pas le Beagle ?
Le Beagle, non.
C'est des mots français ?
Ah oui.
Et ça désigne un peu le bateau ?
Non, pas spécialement.
C'est pas les termes maritimes.
Ce sont deux termes utilisés par les marins, c'est vrai.
La tempête.
La rugissante ?
Non. Le nœud ?
Le nœud, non.
J'attaque la mémoire.
Toi, t'aimes bien voyager sur le nœud.
Donc des termes maritimes, des termes liés à la météo ?
Des termes liés, oui, indirectement, pas seulement à la météo, mais effectivement.
Des noms de nuages, non ?
Pardon ?
Des noms de nuages ?
Des noms de nuages, non.
Mer ?
De mer, non.
La vague ?
La vague, non.
La gifle ?
La gifle, non plus.
La vache ?
La mouille ?
Dites donc, il y en a deux à trouver, on n'est pas,
pas rendu.
On n'est pas rendu, hein.
Oui, si ça fait du bien à Chantal, elle a dit le nœud, la mouille, c'est la...
Si on en trouve un, c'est pas mal déjà, non ? Ça suffit pas ?
Bah, franchement, je pensais que vous alliez au moins en trouver un très facilement et que vous trouveriez l'autre par déduction.
La barque ?
La barque, non.
Est-ce que ça donnait son nom à quelque chose de célèbre ?
Non, mais c'est deux mots communs, donc c'est deux mots très faciles à trouver, vous voyez.
La corne ?
La corne, non.
La proue ?
La coque ?
La proue, la coque, non.
La louse ?
La louse, non.
L'ascenseur ?
Non.
La poule ?
La poupe ? La poupe, non.
Ça décrit un objet ?
Oui, ça décrit deux objets.
Ces objets, on peut les retrouver ailleurs que sur un bateau ?
Oui, bien sûr.
Dans une cuisine ?
Oh non, ça dans une cuisine, il y a peu de chances que vous les utilisiez.
À l'extérieur de la maison, on peut utiliser ou à l'intérieur ?
C'est plutôt à l'extérieur qu'on les utilise, oui.
Est-ce qu'on en a chez nous ?
Non.
On n'est pas bon là.
Non.
Non. Là, on coince là.
Non, mais avec Laurent, c'est difficile. Quand on trouve trop vite, il dit vous cassez le jeu, vous dites trop vite. Et quand on trouve pas assez vite, c'est non, c'est pas ça, il y en a marre. On vous a déjà dit. Oui, elle a raison. Non, oh, j'en ai marre. Écoutez, vous avez l'impression que je ne fais rien, mais j'anime, moi, merde.
Et il a raison, Pierre. Écoutez ce qu'il dit, enfin quoi.
Mais c'est un peu vrai.
Il est furieux quand on trouve, furieux quand on trouve pas. Et c'est quand qu'il est gentil.
Il va pleurer, arrêtez.
Alors, monsieur Pierre, c'est simplement que je suis déçu par vous. J'imaginais que vous connaissiez bien monsieur de La Pérouse, voyez.
Et oui, c'est une chose très importante, La Pérouse. Parce qu'on pensait que Louis XVI ne s'occupait de rien, ne foutait rien. Or, c'était un passionné de voyage, de géographie, il savait tout. Et jusqu'au dernier moment, jusqu'au 14 juillet, il s'est occupé de savoir où était La Pérouse. Il envoyait des navires, je cherchais dans les mers. Où pouvait être ce bateau. Et on a vu que Louis XVI n'était pas un con du tout. Parce que ça, il avait
on dit
cette
même
passion.
Qu'avant de monter sur l'échafaud, il aurait encore dit « Mais est-ce que La Pérouse est revenue ?»
Oui.
C'est fou, hein, mais c'est effectivement, La Pérouse n'est jamais revenue avec ces deux bateaux qui s'appelaient...
La perle.
La perle, non.
L'aventure,
non.
Est-ce que ce sont les mots qu'on cherche sont des objets qui ont été fabriqués par l'homme ?
Oui, bien sûr.
Ce sont
deux objets utiles.
On avance.
La girouette.
Oui.
La girouette, non, mais on se rapproche.
La boussole.
La boussole, voilà, un des deux bateaux. Bravo, Gazan.
Voilà, c'est parti.
Mais c'est Gazan. Et c'est Gazan encore.
Ouais, c'est
mais ton savoir va jusqu'où ? Sincèrement.
Alors, la boussole, on aurait pu trouver, c'est vrai.
Et la longue vue.
Et l'autre est très facile une fois que vous avez trouvé la boussole.
Vue.
La longue vue, non. Parce que c'est du même ordre.
La girouette.
La girouette, non, on l'a déjà dit, Chantal.
Ah, cette Chantal.
Ah, j'en connais une girouette ici, elle
c'est
est plus girouette
sextant.
Que girafe, croyez-moi.
C'est pas le sextant.
Le sextant, mais pas en ce moment.
De toute façon, c'est là quelque chose.
Donc c'est un objet de navigation aussi.
Un objet de navigation aussi, oui. Ouais.
La map monde.
À l'époque, évidemment.
La carte.
La carte, non. La boussole et
la GPS.
On n'est pas loin, c'est le GPS de l'époque.
Ouais, bah oui, c'est ça. La carte.
La carte.
Mais non, ouais, non réfléchissez.
La planisphère, les étoiles, c'est un rapport avec les étoiles.
Non, la boussole et...
La vigie.
La vigie, non. Il reste 30 secondes.
C'est un objet qui sert à se déplacer,
à
trouver sa route.
Je suis très content, on va donner 300 euros à notre auditeur.
Bah oui. Il l'a bien mérité.
Hein. Eh oui, la boussole.
L'étoile du Nord.
L'étoile du Nord, non.
La rose des vents.
L'astrolabe.
Mais oui, oh là là. Oui,
mais c'est pas là.
Comment
c'est
l'apostrophe.
C'est pas là plus loin, Astrolabe.
Je vous ai
pas.
Il a jamais dit là.
J'ai jamais dit ça, monsieur.
Ah oui, c'est là. Non, ça marche pas. Parce que l'Astrolabe, tout le monde l'aurait trouvé.
Ben oui, parce que j'allais dire en plus.
L'Astrolabe, c'est un mot qu'on emploie tous les jours.
Quel mauvais.
Comment ça va? Comment ça va? Attends, je regarde sur mon astrolabe. Oui. Prenez la deuxième à gauche, rue de Picpus, si vous y êtes. Alors, je te dis, comment qu'on est traité ici? Tu racontes, ils te croivent pas, les gens.
L'astrolabe et la boussole permettent de gagner 300 euros à notre auditeur. Alors évidemment, en version française, le film s'appelle « L'homme à la moto ». D'où, évidemment, ma question, puisque j'en reviens à cette célèbre chanson...
Édith Piaf.
Ça serait trop facile. D'ailleurs, je vais vous dire, la chanson d'Édith Piaf...
C'est une adaptation.
Puisque c'est elle qui a créé cette chanson en France, bravo Monsieur Perroni, c'est une adaptation au départ d'une chanson américaine. He wore black denim trousers and motorcycle boots and a black leather jacket with a nickel on the back. He had a hopped up sickle that took off like a gun. The Cheers, voilà, c'est les premiers à avoir chanté cette chanson en version originale en 1955.
C'était les Companions of the Chanson, non?
Et puis Jean Dréjac a écrit le texte en français pour que Piaf l'interprète. Mais Edith Piaf, on peut l'écouter, vous l'avez Piaf évidemment avec l'homme à la moto. Il portait des culottes, des bottes de moto, un blouson de cuir noir avec un aigle sur le dos. Piaf n'a pas été la seule à interpréter cet énorme succès. Je voudrais à chaque fois que vous retrouviez le nom de la chanteuse ou du chanteur qui chante. L'autre version. Il portait des culottes,
des bottes de moto, un blouson. C'est français ?
Oui, c'est français, oui.
Carla Bruni.
Non, pas. Mais c'est ça. Elle a fait l'homme à la trottinette, elle.
Véronique Sanson.
Mais non.
Non, on la connaît.
C'est grâce à cette chanson même qu'elle a commencé sa carrière. Écoutez.
On la connaît.
Elle a été grosse tête de temps en temps, d'ailleurs.
Marie Lacouré.
Non.
Magali Noël.
Mais non.
Petula Clark.
Mais non.
Elle a une voix formidable.
Mais grosse tête avec nous.
Avec Philippe Bouvard, parce qu'elle a été copine. Elle allait souvent chez Castel, elle sortait beaucoup.
Oui, mais je veux.
Régine.
Mais on ne connaît qu'elle. C'est un prénom uniquement.
Oui, enfin.
Et ça se termine par un Y, même
Dani. Pas Dani.
Catherine
non.
Ringer.
Non.
Dalida.
Non.
Elle est morte ou elle est vivante? Ah oui, bon, on la connaît, la
Nicoletta. Nicoletta, bravo, Plaza. Eh ben, dis donc. Alors attention, voici une autre version. Il portait des culottes, des bottes de moto,
un blouson de cuir noir avec un aigle sur le dos. On sait aussi ça. Qui partait comme un boulet de canon,
semait la terreur dans toute la région. L'air qu'on roule comme ça, la terreur.
C'est Mireille Mathieu.
Non.
Michel Thor.
Michel Thor. Bravo, Péroni. Ah, j'ai une version un peu plus amusante.
Juliette.
Ah oui, non.
Bravo, c'est Juliette, on l'écoute un peu. Avec un aigle sous le dos, sa moto qui partait, à mon boulet de canon, s'aimait la terreur en toute la région. Mi corazon. Voilà Juliette, bravo, hein, Philippe Gueluc. Ouais. Une autre version encore. Il portait des culottes, des bottes
de moto.
Mireille Mathieu.
La vraie Mireille Mathieu.
Merde, j'ai même pas reconnu la Mireille.
Et puis une dernière, plus difficile peut-être. Il portait des culottes, des bottes de moto,
un blouson de cuir noir avec un aigle sur le dos. Catherine Ragier.
Non.
Vivante.
Vivante.
Dans toute la région. C'est une comédie.
Marie-Paul Belle.
Non.
Non, Marie-Paul chante.
Comédie.
Écoutez bien. Les ongles pleins
de cambouis sur le biceps. Oh, Brigitte Fontaine.
Brigitte Fontaine, réponse de Jean-Jacques Perroni. Eh ben voilà, faut dire que le Préfontaine y connaît. Perroni.
Ouais, c'est ça.
La Fontaine.
Pourriez-nous chanter, vous, l'homme à la moto, Valérie? Je suis sûr que vous connaissez la chanson.
Il portait des culottes, des bottes de moto, un blouson de cuir noir avec un aigle sur le dos. Sa moto qui partait comme un boulet de canon semait la terreur dans toute la région.
Voilà! Ah non, c'est bien! Non, là, bravo. Et on encourage maintenant la version Cordula. Ouais, ouais. Et c'est là qu'on va se marrer.
Il portait des culottes, des bottes, des motos, un blouson de cuir noir avec une aigle sur le dos, sa moto qui partait comme un boulet des canons, s'aimait la terreur dans toute la région.
Ouais. Ouais. Que fabriquaient François-Xavier Tourte, Dominique Pécat et Eugène Sartori pour que leur nom reste marqué dans l'histoire de cet objet ?
Ils s'y sont mis à trois.
Ah non, chacun en a fabriqué à son tour, voyez.
C'est des gâteaux.
Des gâteaux, non.
C'est un objet du quotidien ?
Du quotidien, on ne peut pas dire ça. Non, tout le monde ne s'en sert pas.
C'est typiquement breton ?
Ah, ce n'est pas breton du tout.
C'est lié à un métier particulier ?
C'est lié à un métier particulier.
C'est un instrument ?
Un instrument, alors oui et non.
Ah, c'est l'archer ?
L'archer pour ?
Pour le violon ?
Pour le violon, par exemple. Bonne réponse de Jérémy Ferrari.
Ah ben, dès que c'est la musique, hein. C'est la première et dernière de l'année.
François-Xavier Tourte était horloger à l'origine et on l'a surnommé le Stradivarius de l'archer parce qu'il fut un des premiers à utiliser un bois rare et cher, le bois du Brésil, appelé bois de Pernambouc. Et ensuite, ce sont ses disciples, Dominique Pécat et puis Eugène Sartori, plus récemment, qui ont effectivement respecté la tradition de cet archer cher, réputé. Et si je vous en parle, c'est parce que des archers ont été subtilisés, volés pendant le week-end. Un luthier a été dépouillé. Ça coûte très très cher, un archer. Il s'agit de pièces de haute valeur historique. On peut imaginer que parmi ces archers, il y en avait peut-être qui étaient un Tourte, un Pécat, parce qu'on les appelle comme ça, hein. On dit un Tourte du nom de celui qui les fabriquait, un Pécat ou un Sartori. Ça peut coûter entre 50 à 80 000 euros un archer.
Encore à 704, on les vendra plus cher.
À ce prix-là, moi je peux pas me payer un violon. Hein.
Bah non, mais c'est pour vous dire quand même que c'est important et que ça a de la valeur. Ouais, quelqu'un a déjà pratiqué Anne Roumanoff, je suis sûr que dans votre famille on joue de la musique classique et qu'on vous a appris à jouer du violon.
Ah non, pas du tout, mais j'ai eu des voisins qui apprenaient le violon, c'est un peu dur. Ah oui, au début c'est...
Ah c'est dur.
Christine, vous avez joué du violon peut-être ?
Ah, pas du tout,
jamais.
Hélas.
Chantal ?
Ma grand-mère jouait très bien du violon, oui.
Chantal, on a l'impression que vous avez un violon dans la bouche, vous voyez, mais
ah
quelqu'un
bon
qui apprendrait.
Ah bon, d'accord, ça vous énerve à ce point-là.
Mais
oui,
personne ne te le volera, celui-là.
Non, c'est vrai, il y a quelque chose de bizarre dans votre voix. C'est...
Aujourd'hui particulièrement ou toujours ?
Toujours.
Toujours.
Toujours,
des jours, c'est contrebasse, mais aujourd'hui, c'est violon.
Ah bon ?
Ouais.
Est-ce c'est bizarre.
Est-ce que tu avais cette voix déjà petite ?
Violoncelle ?
Oui, j'avais déjà cette voix.
Ah ouais. Et personne n'a essayé de te faire un exorcisme ou quelque chose comme ça. Mais tu sais, peut-être qu'un jour tu vas muer. Hein.
Il serait temps.
C'est joli de me dire j'ai une voix de violon.
Le premier cri de bébé, c'était.
J'ai failli le biberon.
Descendais l'escalier et je disais une bière.
Non, mais c'est vrai que ça a dû faire peur à vos parents, vos premiers cris.
C'est vrai que ça fait peur au début, mais on s'habitue après, ouais.
Vous savez, tes parents, ils parlent comme ça. Enfin, il y a quelqu'un, je c'est génétique.
Il n'y a que moi, je suis unique. Non, c'est vrai, mais tout le monde me dit j'ai une voix bizarre, mais je m'en rends pas compte, moi.
Moi, je trouve qu'elle a des beaux graves. C'est sensuel, sa voix de Chantal.
C'est ce qu'on me dit aussi, oui.
Contre les aigus, faut les chercher. Hein.
Hier, c'était la journée des péniciformes. Mais de quoi s'agit-il ?
C'est des pénis qui ont plusieurs formes.
Non.
Des petits, des grands, enfin, qui viennent dans ma chambre.
J'ai mal prononcé, d'ailleurs, je crois qu'on dit des sphéniciformes, ce qui n'a rien à voir.
Les sphénis.
Les sphéniciformes.
Alors, sphénis, c'est comme phénix.
Pas du tout.
Non.
En tout cas, c'était la journée des sphéniciformes. Peut-être ça vous a échappé, mais on en reparle dans la presse aujourd'hui.
C'est un tournoi ?
Un tournoi, non.
C'est un animal, vous avez dit ?
C'est un animal.
Un insecte ?
C'était la journée des...
C'est des larves, les petites larves qui soignent.
T'as déjà vu la journée des larves ?
Phéniciformes.
Il y a des larves qui soignent.
Oui, ils viennent de trouver ça.
Un phéniciforme, est-ce que ce ne serait pas les papillons ?
Les papillons, non.
Non. Est-ce que c'est un animal vertébré ?
Vertébré, oui.
Est-ce que ça fait partie des mammifères ?
Des mammifères, non. Des sphéniciformes, vous en avez vu, monsieur de Kersauzon ?
Dans la mer, alors, dans la mer.
J'ai vu tellement de choses dans ma vie, que je veux dire.
Dans la mer ?
Dans la mer, pas trop, mais ça peut
sur
arriver.
La plage.
Les tortues ?
Sur la plage, j'irai pas jusque-là.
Vous voulez dire qu'Olivier les a vues sur lui-même ?
Est-ce que tu t'es fait sucer par une tortue ?
J'ai hâte de savoir ce que c'est.
C'était la journée des morpions.
Non, le phéniciforme. Donc
moi, je
est...
Ariel, un conseil, j'irai pas trop fort quand même dès le départ, voyez-vous.
Non, non, mais vous dites que c'est plutôt dans le milieu aquatique, les océans.
Ça, c'est
les
vrai.
Poissons volants.
Des poissons volants, non.
Alors attendez, c'est dans l'eau ou pas dans l'eau?
Parce que justement, ça ne vole pas, les phéniciformes.
Bon, c'est dans l'eau ou c'est pas dans l'eau?
Ça peut aller dans l'eau, mais c'est pas toujours dans l'eau.
Les grenouilles.
Les grenouilles, non.
Ce ne sont pas des batraciens.
Des batraciens, non.
Non, ça a les pieds palmés.
Ça a les pieds... Je crois que ça a les pieds palmés.
Oui, c'est les pingouins, alors.
Alors, pas les pingouins.
Les sortes, ah,
les manchots. Les
manchots,
ouais. Les manchots. Bonne réponse de Jean-Philippe Janssen. Vous n'allez pas me dire, monsieur de Kersauzon, que vous confondez les manchots et les pingouins.
Non, mais sauf que en anglais... Les manchots, c'est dit pingouins.
Exactement, d'où la confusion.
C'est pour ça que j'ai dit pingouins, parce que moi j'en reviens, j'y étais encore il n'y a même pas un mois, pauvre tâche, et donc j'étais avec des Anglais, donc vous voyez des pingouins, ouais, enfin, et pas
bon,
des manchots.
Tu savais pas, c'est tout.
Ah,
c'est
les Kinder pingouins,
ça veut dire... Toi, tu te la fermes.
Je croyais
te la fermes, de ce que ça s'est bien passé, à partir de maintenant, tu la boucles.
Je vous remercie vivement. Right.
Merci.
Et alors, c'était la journée des phéniciformes parce qu'ils sont en voie d'extinction, parce qu'à cause de la fonte des glaces, ils ont de moins en moins de territoire.
Voilà, tout ce qu'on n'a pas demandé.
Voilà,
et, bah, oui. Et les manchots, ça fera bientôt partie des espèces en voie de disparition.
Ben, c'est exactement ça. Bravo, Ariel, pour cette précision. C'était la journée des manchots hier. Ouais.
Et alors, ça sert à quoi, la journée des manchots?
Eh bien, ça sert à rappeler
à
que...
À prendre conscience, et puis, mais qu'est-ce qu'on peut faire, nous, quand on habite à Paris, pour les pauvres manchots?
Ah bah écoutez, tout...
Rien. Bah, rien du tout.
Donner un bras.
Mais non.
En tout cas, effectivement, on trouve les manchots dans l'hémisphère nord. Attendez, je suis en train de me demander si c'est pas l'inverse, en fait.
Bon, après, ça dépend de quel côté on voit la planète.
Fais les pieds au mur, tu verras.
Non, mais les manchots, c'est dans le sud, les pingouins dans le nord. Voilà. Les pingouins, mais vous avez raison, la confusion vient de là. Les Anglais ne disent pas, effectivement, le mot pingouin quand il s'agit de pingouins.
Ils disent quoi?
Pingouin quand il s'agit de manchots.
Mais grosse guine quand il s'agit de pingouins.
Ah oui, votre sœur, elle est pingouine. Tandis que vous n'êtes pas manchot.
Moi, je suis pine d'huître.
Non, mais c'est toute la différence. Quand on dit pingouin, on doit dire hawk, ou plus précisément, razor bill pour le petit pingouin. Razor bill.
Voilà.
Vous en avez déjà vu en vrai des pingouins, vous, ou des manchots, Ariel?
Oui, parce que je suis allée en Basse-Californie.
Oui.
Et bizarrement, il y en avait. Et j'ai vu aussi les accouplements des baleines.
Ah oui, racontez.
Eh bien,
je sortais de la baignoire de ma chambre de yacht.
Qu'est-ce que je vois?
Qu'est-ce que je vois? Une grosse baleine.
Des accouplements de baleines.
Oui, oui.
J'étais chez monsieur
et
madame Janssen.
Oui, c'est donc sur la côte pacifique, vous voyez, tout à fait le sud de la Californie, la passe. Et là, chaque année, les baleines se rejoignent. C'est un des endroits au monde, ça doit se passer aussi ailleurs. Mais en tout cas, là, c'est connu. En avril, elles arrivent par meute et il y a...
Une meute de baleines.
Une meute de baleines, voilà. Je suis pas sûr.
Une meute de baleines, ça rentre pas dans mon bidet. Ouais. Ça.
L'autre fois, j'étais dans la forêt.
J'essayais de mettre des baleines dans mon bidet, tu peux pas en mettre.
Moi, dans la forêt, j'ai croisé un banc de loups.
Et alors?
Eh bien, alors, c'est très extraordinaire. Alors, ce que l'on ne sait pas, c'est qu'on imagine une baleine toute lisse.
Oui.
Mais en fait, non, il y a plein de coquillages accrochés à la baleine.
Ah oui?
Quand on la voit de près, c'est incroyable.
Vous êtes sûr que c'était pas un rocher?
Et alors, comment ils s'accouplent?
Elle est très complaisante, Madame Baleine.
Ah oui.
Oui, elle est très complaisante. Mais et elle peut avoir plusieurs partenaires.
Ils sont ventre à ventre ou parce que et s'il se met sur son dos, lui,
oui,
faut qu'il en ait une sacrée pour faire le tour de la. Enfin...
Mais et puis elle, il faut avoir une grosse chatte de baleine.
Non, mais je ne suis pas allée sous l'eau avec elle. Non. Moi...
De toute façon, il n'y aurait pas eu confusion. Hein.